Boulevard 102.1.
Bon midi, chers auditeurs, chères auditrices. L'émission en jase avec Jeff Fortin et Mathias Turcotte. Dernière de Mathias avant un congé. Tu t'en vas où, mon ami?
Je m'en vais du côté de l'Autriche.
Donc, mais le fun. Hey, je suis jamais allé sur le continent européen.
Jamais?
Non, je t'envie, mon ami. Profite-en, t'en vas avec les parents?
Oui, avec un petit voyage de famille.
Ah, c'est toujours le fun. Profitez-en, passez du bon temps ensemble. Ça va être Nathan Meilleur qui sera avec moi la semaine prochaine, ainsi que lundi et mardi de l'autre semaine. Et par la suite, Mathias Turcotte revient à cette émission. On en jase, votre rendez-vous d'actualité du midi. C'est un bonheur de faire cette émission-là avec vous, chers auditeurs, chers auditrices. Mathias, il faut commencer en circulation.
Oui, j'ai pas le choix parce que autoroute 20, direction ouest, à hauteur de chemin des îles, la voie de gauche qui est présentement bloquée en raison d'un accident. Puis, c'est un parking. Je vais vous le dire, là, présentement, l'autoroute 20 en direction ouest, entre chemin des îles, puis ça remonte un peu après président Kennedy, même d'ici pas long, ça remonte jusqu'à Monseigneur Bourget. C'est un parking. Évitez le secteur. Également, on a de la circulation déjà du côté de la rive nord parce que c'est vendredi. Capitale direction est, c'est entre Pierre-Bertrand et boulevard Masson. Présentement que c'est au rouge, leur ancienne direction sud pour prendre capitale, léger ralentissement aussi. Capitale en direction ouest à hauteur de leur ancienne, c'est déjà au ralenti. S'il y a quoi que ce soit d'autre, ça se passe au 418-971-1021 par texto.
Vous rappelez, chers auditeurs, chères auditrices, 418-971-1021 pour interagir avec nous. Je suis certain que vous allez interagir avec nous pour le premier sujet qu'on va traiter avec Emmanuel Latraverse parce qu'on va parler de cette interdiction des boissons énergisantes pour les jeunes de moins de 16 ans. Projet de loi qui a été déposé. Le Parti conservateur commence peut-être à plier. Donc, je suis sûr que vous allez aimer donner votre opinion. BLVD.fm, c'est notre web radio. Belle façon de nous écouter également. BLVD 101, c'est notre application sur App Store, Google Play Store. Téléchargez-les. Meilleure façon de nous écouter. Et haut-parleurs intelligents, vous êtes écoutés BLVD 102.1 et on apparaît dans vos oreilles. Mathias, avant de passer au caucus avec Emmanuel, qu'est-ce qu'on doit suivre dans l'actualité?
À partir de demain, Bruno Marchand s'envolera du côté de l'Europe jusqu'au 18 juin, ça pour une durée de 12 jours au total. On fera deux destinations, Belgique et Italie. L'objectif sera d'attirer deux congrès en 2029, soit celui de l'Association internationale des maires francophones et celui de Vélocity. Investissement Québec rebondit avec un rendement de 7,4% pour l'exercice de 2025-2026. Une grosse augmentation par rapport à leur maigre rendement de 0,3% l'an dernier. Ces résultats de 7,3% sont surtout dus au fort rendement du portefeuille de participation en action qui s'est élevé à 16,9% sur l'année. Et je termine avec un dépôt d'un projet de loi ce matin qui a fait beaucoup réagir dans l'actualité au cours de la dernière semaine. C'est une loi visant à interdire la vente de boissons énergisantes aux moins de 16 ans. Ce matin, du côté de l'Assemblée nationale, tous les partis de l'opposition participaient à l'annonce avec la CAQ. Les parents de Zachary Miron également, on nommera la loi, le projet de loi Zachary Miron, le jeune de 15 ans qui est malheureusement décédé en 2024 à la suite d'une réaction d'une boisson énergisante avec son médicament pour le TDAH, était présent également. Donc, toute la classe politique, sauf les conservateurs, était présent à ce point de presse.
Exactement. On en profite pour écouter le cri du cœur des parents de Zachary Miron.
J'ajouterais, en terminant, qu'on lance vraiment un cri du cœur au Parti conservateur de faire la bonne chose.
Ouais.
D'appuyer ce projet de loi. C'est pour nos jeunes. C'est important.
Oui, c'est un projet qui est juste puis qui est important.
Bravo.
Merci.
Bravo.
Merci.
Ce matin également, on a adopté une motion au niveau de l'Assemblée nationale. Écoutez Guillaume Clich-Rivard de Québec solidaire à cet effet.
Au moment où on se parle, moi j'ai offert vraiment de main tendue au Parti conservateur, puis il y a une motion là qu'on a déposée aujourd'hui, puis Mme Blanchette-Vézina a donné son consentement sur la motion il y a quelques minutes. La motion reconnaît le consensus scientifique et elle reconnaît la pertinence d'encadrer la vente chez les mineurs. Pour moi, du moment où on a fait ce pas-là, à mon humble avis, il ne reste pas grand-chose vers une adoption. Donc vraiment, je tends la main.
Vous êtes plusieurs à réagir. Continuez au 418-971-1021. Je vous dirais comme ce matin, dans Marceau le matin, à peu près 95 à 98 des gens ne comprennent pas le positionnement d'Éric Duhaime. Et pour en parler, d'Éric Duhaime et de Maïté Blanchet-Vézina, avec le Parti conservateur du Québec, pour en parler, on va de ce pas rejoindre Emmanuel Latraverse. Emmanuel, comment vas-tu?
Bonjour, ça va bien?
Ça va super bien. Emmanuel, c'est moi qui rêve ou là? On a adopté la motion, on a voté en faveur de la motion du côté de Maïté Blanchet-Vézina. Je sens que lentement, mais sûrement, le Parti conservateur du Québec va gagner les rangs de ce projet de loi.
Ben, je ne suis pas certaine, parce que Maïté Blanchet-Vézina avait voté en faveur d'une motion il y a quelques semaines pour interdire la vente des boissons énergisantes aux moins de 16 ans.
OK!
Ça ne l'a pas empêché d'annoncer hier que le Parti conservateur ne donnerait pas son consentement pour qu'il soit adopté prestement, tout d'un coup, sans grandes études, en commission parlementaire. Là, encore hier, je l'avais en entrevue avec moi au bilan et elle défendait bec et ongle sa position en disant « Le gouvernement aurait dû agir plus tôt. Il y a plein d'enjeux plus larges et donc il faut se donner le temps d'étudier en bonne et due forme tous les détails et les options entourant la vente des boissons énergisantes, etc. » Donc, écoute, s'ils décident de marcher sur la peinture, je pense que ce serait un bon moment pour le faire. Il y a deux enjeux là-dedans. Hein?
Vas-y.
Je pense que c'est important de les séparer. L'enjeu sur lequel le Parti conservateur n'a pas tort, c'est que le gouvernement aurait pu agir plus tôt et aurait dû agir plus tôt.
Pleinement d'accord, moi aussi.
Si le gouvernement avait déposé un projet de loi plus tôt, il aurait pu être étudié plus longuement en commission parlementaire, etc. Okay? Le reproche, il est fait. Il est entendu. Est-ce que c'est une raison pour maintenant ne pas donner son consentement à une adoption ultra rapide d'un projet de loi très pointu sur l'interdiction de la vente des boissons énergisantes aux moins de 16 ans, sous prétexte qu'il y a plein d'autres enjeux autour? Mais c'est là qu'on tombe dans le mieux est l'ennemi du bien.
Ah, oh, tellement.
Parce que l'argument selon lequel on peut toujours revenir et l'étudier après la campagne électorale, excusez-moi, c'est pas le même, ça marche la vie, là. Dans quel monde on va être au lendemain de la campagne électorale, début novembre? Ça va être quoi la priorité du prochain gouvernement? Mm-hmm. Qu'est-ce qui va arriver? Alors, on s'entend que si on ne l'adopte pas maintenant, avant le 12 juin, je te mets ma main au feu qu'il ne sera pas adopté avant dans un an, ce projet de loi.
Ouais, je suis d'accord avec toi parce que le nouveau gouvernement va arriver avec ses nouvelles priorités.
Ben, va arriver avec ses nouvelles priorités, puis est-ce qu'on va être au lendemain d'une élection? Est-ce qu'on va être capable de refaire le consensus? Tu sais, des fois, il faut battre le fer pendant qu'il est chaud, même si c'est de manière imparfaite, parce qu'il y en a un consensus. C'est mauvais pour la santé. Il y a trop de sucre là-dedans. Il y a trop les produits chimiques, les doses de caféine, la surstimulation. Puis de surstimuler un ado, c'est pas la même chose que de surstimuler toi ou moi.
Non, en effet.
Nous, en tout cas, je sais pas pour toi, mais moi, j'ai passé la cinquantaine. Mon cortex préfrontal, là, mon centre du jugement dans mon cerveau, là, il est formé. Je suis un adolescent, il ne l'est pas. Et donc, c'est là que ça a des conséquences. Il y a comme un effet domino qui se produit chez eux, à la recherche d'un high et d'un buzz facile, sans compter les risques à la santé, sans compter le fait que c'est la seule solution en ce moment-là. Parce que c'est pas vrai que tu vas dire à un enfant, « Ah, chérie, tu souffres d'un TDA. Tu as pris ton Concerta ce matin. Tu as pris ton Vivant ce matin. Quand tu seras à la montagne de ski en train de faire le party avec tes amis, et le jugement, jeune ado de 15 ans, de dire « Non, moi, je ne prendrai pas de Red Bull alors que vous tous, vous vous enfilez des canettes. » Écoute, là,
non, c'est
là,
ça. On a tout eu cet âge-là.
Donner les moyens à nos ados de réussir, là, c'est pas les mettre en situation d'échec, là.
C'est ça.
Alors, voilà. Et peux-tu ajouter une chose?
Ben oui, vas-y.
Sur l'histoire du pamplemousse.
Mm-hmm.
Okay. Ma boîte courriel a été, je ne suis pas inondée, mais j'ai reçu au moins 15 courriels de gens qui m'ont dit de faire mes recherches parce qu'il y avait, vraiment un risque quand on prend le médicament qui s'appelle le statine avec du pamplemousse. Okay? Et là, l'exemple que me citent les gens, c'est un épisode d'Indéfendable. La série à la télé où une femme est finalement accusée du meurtre de son mari pour lui avoir donné du pamplemousse alors qu'il prenait des statines et avoir causé une crise cardiaque. C'est une série télé.
Ouais.
Dans les faits, le pamplemousse ne cause pas de crise cardiaque.
OK. Fait que là, t'es en train de me dire que la fiction n'a pas rattrapé la réalité.
Il change les mécanismes d'absorption de ce médicament-là. Il l'amplifie. C'est mauvais. Mais il n'y a pas un risque qu'en mangeant ton pamplemousse rose le matin, tu te ramasses à l'hôpital en train de faire une crise cardiaque dans l'heure qui suit. C'est ça la différence entre les deux.
Alors que pour les boissons énergisantes, c'est documenté, c'est des cas réels. Je te fais entendre Éric Duhaime ce matin sur nos ondes où il parle justement d'interdiction au Québec.
Je pense que tout le monde qui nous écoute comprend là, que c'est tragique. Là. Puis tout le monde au Québec, on a été secoué quand on a vu un jeune de 15 ans mourir parce qu'il a pris une canette de Red Bull et qu'il a mélangé ça avec des médicaments. C'est sûr que c'est préoccupant. Cela étant dit, au Québec, là, on a l'interdiction facile aussi, là. Dès que quelque chose ne marche pas, c'est la solution.
C'est pas un argument. Pour moi, là, on a l'interdiction facile. C'est prouvé, c'est documenté, donc interdisons-le.
On a décidé de ne pas vendre la marijuana aux jeunes de moins de 21 ans à cause de l'impact sur leur cerveau.
Ben, c'est ça. L'alcool, c'est 18 ans.
Moi, je veux dire, il y a un problème, cependant, d'application avec cette loi-là. C'est l'idée du 16 ans. T'sais. C'est que là, ça devient compliqué, je pense, dans les lieux de vente.
Ouais.
De discerner. Si tu demandes ta carte d'étudiant à un jeune de 16 ans pour prouver qu'il a 16 ans, pour prouver qu'il a 17 ans. Mais je pense que des fois, le fait d'agir de manière prompte, décisive, c'est imparfait, mais ça a la vertu d'envoyer cependant un signal sans équivoque. Puis ça envoie un signal sans équivoque à l'industrie.
Oui.
Ça envoie un signal sans équivoque aux parents. Ça donne des outils aux parents.
Je suis tellement d'accord.
Aux enfants de ne pas le faire. Alors, à un moment donné, j'ai beaucoup de difficultés à comprendre cette obstination. Puis, même si sur le point de vue philosophique, on en parlait hier, en politique, il faut faire des choix. Et je ne vois pas en quoi mener cette bataille-là est payante pour le Parti conservateur. Des fois, t'es mieux de mener des batailles qui sont payantes, puis il y en a que tu devrais peut-être mener, puis que ça vaudrait la peine de mener, puis tu sais...
Oh oui. Emmanuel...
C'est pas payant. Puis là, c'est pas le moment.
Ben non. Parti conservateur du Québec, OK? On s'entend, c'est Châteaufort sont la région de Québec et la région de Chaudière-Appalaches. C'est nos auditeurs à Boulevard. Depuis hier... 98 % des personnes qui réagissent avec nous par texto disent « Voyons donc, qu'est-ce qu'ils font là, le Parti conservateur, de s'opposer? » Ce matin, au moins une dizaine de textos de gens qui nous ont dit « Hey, savez-vous quoi? Moi, je votais conservateur, c'est fini, je vote plus pour eux autres. » Donc, il a perdu sur toute la ligne. Même si Éric Duhaime m'a dit « Ouais, mais là, moi, je gouverne pas par sondage. Ouais, mais c'est parce qu'à un moment donné, c'est quoi les risques, c'est quoi les bénéfices? J'ai plus de risques que de bénéfices. OK, c'est beau, tu sais, je m'a rentré dans les rangs puis je vais faire en sorte que ça passe.
C'est juste comme « let it go », là. T'sais,
c'est fois, ça. Là. Ben, c'est ce qu'il n'y avait même pas de débat à avoir, c'est ça qui est...
Elle a une belle poignée. Mme Maïté Blanchette Vézina a rencontré les parents du jeune Zachary aujourd'hui. Là, qu'à dire, je les ai rencontrés, j'ai entendu leur cri du cœur... Je me ravise. Merci, mm-hmm. Bonsoir. Je ne suis pas d'accord avec cette loi-là, mais plutôt que d'empêcher qu'elle soit adoptée rapidement, je vais m'abstenir. Merci, bonsoir. C'est terminé, là.
Oui, bien, je me pose cette question-là. Si jamais elle décide de continuer puis que le Parti conservateur continue de s'obstiner contre cette loi-là, est-ce qu'ils ont un levier suffisant pour empêcher qu'elle soit adoptée d'ici la fin de la session parlementaire?
Ben, c'est les mots qui comptent, c'est fin de la session parlementaire. Parce qu'il y a une... Puis je suis pas une déesse là, de la procédure parlementaire à Québec, mais il y a une procédure à Québec qui s'appelle le 1-2-3, tu sais. Mais ça prend un consentement unanime. Tu le déposes, tu fais le 1-2-3, c'est adopté, bing-bang, c'est réglé. Tu comprends-tu?
Mm-hmm.
Sinon, mais il faut suivre les étapes parlementaires. Ça veut dire qu'il faut que tu ailles en commission parlementaire, que tu entendes des témoins, que tu fasses un article par article, que tu reviennes, etc. Puis là, T'sais, on est déjà vendredi. Il reste, après, aujourd'hui, il reste 4 jours de session parlementaire où ils vont siéger, là. Puis il y a beaucoup d'autres projets de loi qui sont en ce moment devant les commissions parlementaires. Donc, il a été pris dans un goulot d'étranglement. Puis à ce chapitre-là, le reproche du Parti conservateur est absolument valide, là. On s'entend, là.
Très, très, très valide.
Il n'aurait pas dû. L'alternative, cependant, puis je pense que, moi, je l'évoquais un peu à la blague hier, mais je vois que ça a été repris par certains députés. C'est pourquoi est-ce qu'il faut absolument arrêter de siéger le 12 juin?
En effet, Éric Duhem nous en a parlé.
Siège jusqu'à la Saint-Jean, là.
C'est ça, Éric Duhem, ce matin, il a dit « Moi, je propose qu'on siège jusqu'à la Saint-Jean-Baptiste. »
Mais, alors, on va voir ce qui va arriver, mais de tout... Donc, je pense que les partis politiques vont prendre les moyens de s'assurer que ça finisse par être adopté, malgré les bâtons dans les roues du parti... conservateur, mais on s'entend, je pense qu'il y a presque un consensus à l'effet que celle-là n'était pas nécessaire.
Je suis très, très, très d'accord avec toi, donc on va suivre ça attentivement. Évidemment, comme tu l'as dit, la porte de sortie pour le Parti conservateur et Maïté Blanchette-Vézina, c'est la rencontre avec les parents. Congrès du Parti libéral du Québec ce week-end. Il y a peut-être quelques pièges pour Charles Milliard. On se rappelle un piège dans lequel il est tombé dernièrement, c'est-à-dire le 7 mai dernier.
I can say that in both official languages, maybe in Spanish if you want to.
Je peux vous le dire dans les deux langues officielles et en espagnol aussi.
Quels sont les pièges pour Charles Milliard cette fin de semaine qui tente bon an, mal an, de se faire connaître un petit peu plus au public?
Bien, le plus gros piège qui lui a été tendu, c'est quand même celui de la coalition Avenir Québec hier, là, avec son projet de loi sur la formation professionnelle.
Oui.
Qui serait soumise à la loi 101. Donc, il fait que c'est seulement les gens dont les parents, les ayants droit, comme on les appelle, là, ceux qui peuvent aller à l'école primaire et secondaire subventionnée en anglais, qui pourraient aller à la formation professionnelle en anglais. Moi, je dirais, de manière plus large, il faut qu'il se passe quelque chose en fin de semaine.
Oui, bien, c'est ça. Faut qu'on marque les esprits, là, parce que les esprits...
Je veux dire, il est complètement dans les limbes en ce moment. Puis c'est sûr que c'est très difficile. La première ministre Fréchette et son entourage sont très, très habiles à définir l'agenda politique, à occuper l'espace, à le quasi monopoliser, là. Tu sais, même le Parti québécois a été grandement éclipsé, je dirais, dans les dernières semaines à cause de ça. Mais au moins, le Parti québécois est en montée, il y a une base, son chef est connu. Charles Milliard, c'est Charles qui, là, tu sais. Alors, il faut qu'il y ait un coup d'éclat, un grand discours, une grande politique. Il faut, parce que c'est vraiment une des dernières occasions pour le Parti libéral avant la pause de l'été, là. Pour essayer de marquer les esprits, vraiment, parce que sinon, on est encore dans les lèvres. Et on promet qu'on va déposer la politique sur la protection de la langue française d'ici le 21 juin, donc on a hâte de voir. Mais, tu sais, pour que les gens ne sont pas comme nous, hein, ils ne passent pas leur vie à lire les détails, etc.
En effet.
Pour que quelque chose percole, il faut que tu te crées une espèce de une séquence, là, tu sais. Où sur 1, 2, 3 thèmes, tu occupes l'espace, ce qui fait que soudainement, les gens entendent ton nom, font attention, écoutent et te considèrent, tu sais. Donc, ça prend plus qu'un seul événement, un seul discours, un seul truc. Bon, il y a la séquence de la protection de la langue française, mais ça prend plus, moi, je pense, pour réussir. Donc, c'est vraiment la fenêtre d'opportunité unique là, pour le PLQ en fin de semaine.
Parce que juste être le chauffeur de l'autobus du camp du non, ça ne fonctionnera pas, là.
Bien, c'est mettre tous tes œufs dans ce panier-là.
C'est ça.
C'est le problème. Puis à 5, on ne sait pas, c'est pas clair comment va se décliner... le paysage et la partie d'échec électoral.
Ouais. Ben, surtout, c'est toi qui nous le dis aussi, la partie d'échec va dépendre des régions. Il va y avoir plusieurs campagnes électorales dans la même campagne électorale.
Alors, il n'est pas encore... Il faut qu'il quitte pour l'été en ayant au moins franchi la barre payante, là, tu sais, du 22, 23, 24 % dans l'électorat francophone. Donc là, au moins, tu as une petite base puis tu peux espérer de capitaliser dessus pendant la campagne électorale.
Emmanuel, est-ce qu'on s'est énervé pour rien avec cette récession technique? Parce que c'est sorti ce matin, l'économie canadienne a créé 88 000 emplois en mai. Le taux de chômage recule de 0,3. Il s'établit maintenant à 6,6 à l'échelle du pays. Là, 88 000 emplois créés en mai, ben, ça vient combler énormément les pertes d'emplois qui étaient à 112 000 qui avaient été enregistrées jusqu'en maintenant en 2026. Donc, est-ce que Pierre Poilievre vient déjà de perdre son cheval de bataille de la récession technique face à Mark Carney?
Je pense que surtout, c'est un bel exemple du trop comme passé. Hein?
T'as raison.
Moi, c'est le rôle de l'opposition de critiquer le gouvernement. Puis je pense que c'est légitime que les conservateurs reprochent au gouvernement que ça prend énormément de temps avant qu'on voit les fruits de leur grande réforme, reprochent au gouvernement qu'on n'ait pas réussi à arriver à une entente avec les États-Unis, etc. M. Carney a quand même été élu sur cette promesse-là. Mais le problème, c'est que la récession technique, c'est pas une récession technique où tu as c'est un trimestre à moins 2 % puis un trimestre à moins 1,5 %. Il y en avait un des deux trimestres, c'était à moins 0,1.
Bien, c'est ça.
Dans la marge d'erreur, là. Alors, c'est là que c'est toujours le problème du chef conservateur dans mon esprit. C'est pas qu'il est sur les mauvais enjeux, c'est qu'il y a le mauvais dosage.
C'est vrai.
On l'a vu, je pense, avec cette sortie-là, qui n'était pas complètement illégitime. De demander des comptes, de s'inquiéter, de trouver que dans son aide aux industries, il y a des secteurs que le gouvernement a négligés, dont il ne s'occupe pas, etc. Tout ça, c'est légitime. Mais de là à dire que c'est le pire gouvernement, etc., puis je veux bien là, qu'on est le seul pays du G7 en récession technique face aux États-Unis. Oui, on est le seul pays du G7 dont 80 % de l'économie est dépendante des États-Unis.
Bien, c'est ça aussi, là.
Puis les gens comprennent ça. Alors, c'est intéressant la réponse de M. Carney là-dessus cette semaine, c'est qu'il a dit, écoutez, on est dans une tempête. Il va y avoir des hauts et des bas.
C'est clair.
Ça va aller bien, ça va aller mal. Puis les gens s'interrogent beaucoup en ce moment. Il y avait un nouveau sondage là, qui est sorti cette semaine où Mark Carney est à 50 % au Québec. La lune de miel se poursuit, etc. Puis, ben, voyons comment ça se fait que les Canadiens sont tellement en amour avec lui alors qu'il n'a pas réussi à livrer sur le front des États-Unis. C'est parce qu'il y a une chose que ma conclusion, puisque j'ai essayé de réfléchir, c'est que les Canadiens, ils se disent, est-ce que quelqu'un aurait fait mieux?
Puis la réponse est non.
La réponse est non.
Puis la réponse
est... Je l'avoue même de certains députés conservateurs qui disent, c'est vrai, dans le fond, on n'aurait peut-être pas fait mieux. Alors,
ben oui.
Les Canadiens ne vont pas reprocher à Mark Carney de ne pas avoir réglé le litige avec les États-Unis quand ils se rendent compte qu'il n'y a aucun autre premier ministre sur Terre qui n'aurait jamais réussi à le régler à cette date-ci, ce litige-là. Donc, c'est ça qui, dans ma tête, exige une forme de... C'est peut-être une approche plus sophistiquée de la part de l'opposition ouais. officielle et des conservateurs dans la façon dont ils abordent, ils critiquent et ils attaquent le gouvernement de Mark Carney.
Bien, c'est qu'il n'y a pas vraiment non plus de piste de solution proposée par les conservateurs qui percolent. Puis là, je vais faire un parallèle avec Charles Milliard. T'sais, il n'y a rien qui est démarque de Mark Carney à l'heure actuelle. T'sais, ils n'ont pas une idée qu'on ferait « Hey, wow, oui, c'est vrai, faudrait que Carney fasse ça. »
Ils ont une idée, mais c'est les mêmes idées qu'ils proposaient avant la campagne électorale.
C'est ça.
C'est enlever les lois, enlever toutes les règles anti-Poutine, ouais. etc. Mais les gens, ils sont pas... Ils l'ont entendu, ce refrain-là, tu sais.
C'est ça.
Et donc, je suis pas certaine que ça les interpelle au même titre que ça les interpellait avant. Surtout quand... La première ministre de l'Alberta s'est réconciliée avec le premier ministre du Canada, tu sais.
C'est ça. Donc là, à partir de là.
Même Danielle Smith, elle trouve
bon, oui.
Puis ça progresse bien. C'est difficile d'être collé au plafond.
Non, exactement. Puis même si encore ces lois-là, Mark Carney, avec son projet de loi sur les grands projets, ça lui permet d'avoir plus de marge de manœuvre aussi. Là. Alors, ça percole moins, là, en effet. Mm-hmm. Emmanuel Latraverse, merci beaucoup pour ce caucus. Je te souhaite.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine. Je te souhaite un excellent week-end. Emmanuel Latraverse qui est avec nous à chaque vendredi dans le caucus. Mathias, es-tu un fan de notre programmation de fin de semaine?
Ben oui.
Hein? On joue-tu de la bonne musique à Boulevard? C'est fou dans la tête.
Puis, c'est pas juste nous autres qui sont fans de la programmation de fin de semaine. Visiblement, il y a de plus en plus de fans de notre programmation de fin de semaine aussi.
Oui. Parce que comme je me plais à dire depuis hier, la reine de Boulevard, Audrey Pinchot, c'est la première de l'histoire de Boulevard en 10 ans à mettre un show numéro 1 sur notre antenne. Et c'est le Rock and Chill. Les samedis et dimanches de 7h à 10h, du rock en version acoustique, c'est la meilleure façon de se réveiller. Demain matin, je m'en vais faire le défi des entreprises. Ah, ça va tellement être le fun. Aller là-bas en écoutant du rock and chill dans mon auto. Me lever le matin, écouter le rock and chill, ça va être exceptionnel. Il y a le boulevard du rock aussi avec Dan Caron et Coloche. Salut les deux boys. Des excellents sondages pour eux aussi. Ils nous rockent la place de 10 à 15. Puis en écoutant le boulevard du rock cette fin de semaine, tu pourrais gagner des accès pour la fête gourmande de Neuville qui va avoir lieu du 20 au 23 août. Ça, là, tu sors de là puis t'as mangé trop de blédingue parce qu'il est trop bon, mais c'est trop écœurant de maïs, devrais-je dire. Et des billets pour le gala de lutte Golden Opportunity qui va se dérouler le 13 juin prochain. D'ailleurs, c'était conférence de presse de Golden Opportunity ce matin. C'est un événement à ne pas manquer. C'est un événement qui se déroule au pavillon Guy Lafleur. Steve Boutette, Michel Plante, Pee-wee, Matt Falco, Claude Maloune étaient présents à cette conférence de presse-là pour parler de cet important gala qui se déroule le 13 juin, je le rappelle, à 20h au pavillon Guy Lafleur. Alex Silva, qui est actuellement suspendu, est même venu provoquer Pee-wee. Ben oui! Puis oui, là, mon 1001 sourire s'est fait provoquer par Alex Silva. Ça va être tout simplement exceptionnel comme combat. Une grande finale 100% Québec avec le champion de la NSPW, Michel Plante, face à Matt Falco, accompagné évidemment du manager Claude Maloune. Vous vous dites, ah, j'hésite encore. Hey, hey, Mustapha Ali et Cédric Alexander, deux anciennes stars de la WWE, vont aussi être présents pour déjà les avoir vus lutter à plusieurs occasions à la télévision et live également au Centre Bell. Ces deux lutteurs dotés d'un athlétisme exceptionnel. Les tickets sont en vente sur ticketpro.ca. T'as pas le choix. Faut que tu te rendes à la NSPW samedi prochain, le 13 juin, au pavillon Guy Lafleur. Vas-tu y aller, toi, Matt?
Le 13 juin prochain?
Ouais.
Je suis en voyage.
Ah, t'es en voyage.
Malheureusement. Mais si j'avais été ici, je serais allé.
Je vais te raconter
ça. On s'entend que c'est un événement à pas manquer. Va falloir que tu me racontes ça, Jeff, là, parce que ça va brasser en maudit.
Exactement. Dans notre programmation de fin de semaine, ne manquez pas les Colosses du Rock aussi avec Colosses de 15h à 17h. Le meilleur show de musique edgy de la province de Québec, j'irais jusque-là. On va aller en pause, vous allez justement entendre la fameuse voix d'Audrey Pinchot nous présenter son extraordinaire Rock and Chill. Après la pause, on vous fait un gros bloc de nouvelles, puis on va avoir plusieurs questions à vous poser également, donc soyez prêts au 418-971-101. Mais avant, Mathias, vendredi, circulation, informe-nous!
Ah ouais, puis ça brasse déjà pas mal. 20 direction ouest, il y avait un accident plutôt, c'est réglé. Par contre, la circulation est déjà difficile entre Taniata et Président Kennedy. Je vous transporte sur la rive nord, capitale direction est. C'est déjà entre Pierre-Bertrand et Boulevard Masson que c'est au rouge. En direction ouest, c'est un ralentissement qui commence à Laurentienne puis qui se poursuit jusqu'à Henri Bourassa environ, Laurentienne direction sud pour prendre justement Capitale, léger ralentissement aussi. Robert Bourassa, direction sud de Le Bourgneuf et ça remonte jusqu'à Père-Lelièvre en ce moment. Ralentissement dans le secteur. Henri IV, direction sud, à hauteur de chemin Sainte-Foy en raison des travaux. C'est au rouge également. Et l'accès au pont, les ralentissements commencent peu à peu à montrer le bord du nez. Là, c'est surtout du côté du Plessis pour l'instant. S'il y a quoi que ce soit d'autre, 418-971-1021, ça se passe par texto.
Excellente blague qui viendra par texto. Faudrait interdire les jeunes qui vont aller voir la lutte parce que ça blesse. C'est une référence justement à l'interdiction sur les boissons énergisantes. je dirais, cher auditeur, auditrice, pour déjà avoir fait des cours de lutte, déjà avoir inscrit mes garçons à des cours de lutte. C'est tellement sécuritaire quand tu sais lutter. Il y a toujours un petit danger, évidemment. Mais quand tu apprends les bonnes techniques, ça devient un sport très, très, très sécuritaire.
Juste vous dire, il y a un texto qui vient de rentrer. Il y aurait un accrochage à l'entrée du pont direction nord entre un camion et un pick-up qui tire une remorque. Il y aurait des débris dans la voie du centre présentement. Donc, il devrait avoir une intervention dans le secteur prochainement, ce qui risque de créer un bon ralentissement également.
Courte pause, un gros bloc nouvelle, puis on va s'amuser à nommer des personnes au 418-971-1021. Restez avec nous. On en jase à Boulevard 102.1, c'est l'émission d'actualité du midi, de midi à 14h. Par la suite, c'est le retour de Gravel sur le podium des sondages au deuxième rang pour Denis, Audrey et Véro. C'est eux qui seront là de 14 à 18h. Et n'oubliez pas, je viens de vous le dire, mais je vous le rappelle, le vendredi, c'est le garage à Dan de 18 à 20. Marceau le soir fait congé parce que la musique reprend son droit. À Boulevard 102.1, la fin de semaine. Météo, justement, ça va être une météo très variable pour les prochains jours. On dit 30% de possibilité d'averse pour aujourd'hui, 21 degrés. Présentement, c'est un couvert nuageux sur nous. 22 degrés demain. Ça va devenir nuageux le matin, suivi de quelques averses. Risque d'un orage en après-midi. Ça va être 22 degrés avec le facteur humidex 25. Et pour dimanche, on prévoit des averses et 18 degrés. Retour de la chaleur lundi à 25. Et à plus long terme, mardi, ça serait ensoleillé à 27 degrés. Mathias, c'est quand même une petite journée d'actualité, mais il y a des choses intéressantes qui se produisent parce que, contrairement à l'habitude, on siège à l'Assemblée nationale en ce vendredi, dans cette fin de session en accéléré. Donc, qu'est-ce qu'on doit suivre?
Bien, justement, j'ai envie de vous dire que le gros morceau aujourd'hui, c'est le dépôt du projet de loi visant à interdire la vente de boissons énergisantes aux moins de 16 ans qui a été déposé ce matin du côté de l'Assemblée nationale. Un point de presse commun de tous les partis d'opposition avec la CAQ. Sauf un parti, le parti conservateur qui n'était pas présent. On sait, ils ont fait une sortie hier pour s'opposer à l'adoption de ce projet de loi-là. Les parents de Zachary Miron, le jeune de 15 ans qui est décédé à la suite de consommation d'une boisson énergisante avec son médicament pour le TDAH, qui était présent lors du point de presse.
On les écoute.
J'ajouterais, en terminant, qu'on lance vraiment un cri du cœur au Parti conservateur de faire la bonne chose, d'appuyer ce projet de loi. C'est pour nos jeunes. C'est important.
Oui, c'est un projet qui est juste puis qui est important.
Bravo.
Merci.
Bravo.
La maman Véronica Martinez était avec nous également hier dans Marceau le matin. C'est disponible sur le blvd.fm si vous l'avez manqué. Maïté Blanchette Vézina, si ce n'est déjà fait, va rencontrer justement les parents de Zachary Miron. Espérons pour elle que ce sera une porte de sortie pour qu'on puisse adopter ce projet de loi.
Il y a un texto qui était rentré concernant... Qu'est-ce que ça va encadrer? C'est quoi la définition d'une boisson énergisante selon la loi?
Ouais.
Puis je lis ici la définition selon le projet de loi. C'est le projet de loi définit la boisson énergisante comme étant une boisson qui possède une concentration de caféine d'au moins 150 mg par litre et qui contient d'autres ingrédients tels que la taurine, des vitamines ou des minéraux. Sont exclus de cette définition les produits suivants, le café, le thé et certains produits de santé naturelle. Donc, avec cette définition-là, on s'en va vraiment cibler des produits tels que Red Bull, Monster, Rockstar. On peut rentrer Guru également, même si c'est de la caféine naturelle, ça reste de la caféine. Par contre, tout ce qui est Coca-Cola, thé glacé, etc., c'est exclu de cette définition-là, étant donné que ça n'a pas une concentration assez élevée en caféine. Contrairement à ce que dit le gouvernement concernant le dossier santé numérique, plusieurs professionnels sur le terrain affirment que l'implantation se passerait mal. Le Journal de Québec rapporte que plusieurs sources trouvent le tout chaotique et que cela retarderait notamment le début des traitements de chimiothérapie. Dans la presse, on parlait d'un syndicat qui indiquait que des gens ont été privés de soins à domicile parce que les rendez-vous ont tout simplement disparu de la plateforme en question. Du côté de Radio-Canada, les médecins seraient épuisés par l'implantation du logiciel. On parle de médecins en pleurs, de détresse psychologique et de charges de travail qui auraient considérablement alourdi.
On écoute Sonia Bélanger en point de presse impromptu avec les journalistes à l'Assemblée nationale ce matin.
Les médecins sont obligés d'envoyer les gens à l'urgence parce qu'ils ne sont pas capables de leur offrir les soins.
Bien, écoutez, il faut faire attention pour ne pas généraliser. On parle de
généraliser, quel...
Il faut faire attention.
Les témoignages se multiplient, Mme Bélanger. Là.
Écoutez, je suis sur le terrain. J'y retourne en fin de semaine. Je suis en contact avec Santé Québec. On a réussi au Québec à implanter un dossier de santé numérique comme 16 autres pays dans le monde.
Mais Mathias, les journalistes ne se sont pas arrêtés à cette réponse-là et ont continué à questionner Mme Bélanger sur tout ce qui est sorti dans les médias. Écoute bien comment ça finit.
Écoutez, vous êtes en train de me poser des questions en lien avec quelques événements qui sont arrivés et il va y en avoir d'autres événements. L'important, c'est qu'on puisse agir.
L'important. Épuisés, là. Il y a trois médias ce matin.
Écoutez, je vous remercie. Merci beaucoup.
On a pris la poudre d'estampette du côté de Mme Bélanger. Elle était tannée de se faire questionner. Pour la ministre de la Santé, présentement, c'est des cas isolés qui sont rapportés dans les médias, mais ça fait quand même plusieurs cas. On va suivre ça attentivement parce que c'était devenu sous le radar DSN. On pensait que le déploiement s'était bien passé, mais là, somme toute, il y a des problématiques encore.
Et Christine Fréchette, la première ministre qui a affirmé ne pas nécessairement avoir été mis au courant concernant les difficultés de DSN. C'est pas la première fois que la première ministre ne semble pas être au courant de certains dossiers.
Ouais, puis c'est pas la première fois dans les dossiers informatiques aussi que les premiers ministres ne sont pas au courant. T'es prenons François Legault dans sa clique, là, ça a été prouvé avec la commission Galant que les informations n'étaient pas montées à son bureau.
La situation, en fait, l'économie canadienne, très bonne nouvelle aujourd'hui. Création de 88 000 emplois pour le mois de mai. Taux de chômage a donc reculé à 6,6%. Du côté du Québec, on est à 5,6%, ce qui est vraiment pas si mal que ça. En fait, c'est un bon taux de chômage en général. Et pour la région métropolitaine de Québec, on reste très bas malgré une légère augmentation à 3,8%. Investissement Québec rebondit avec un rendement de 7,4% pour l'exercice de 2025-2026. Une grosse augmentation par rapport à leur maigre rendement de 0,3% l'an dernier. Ça avait fait beaucoup jaser parce que je vous rappelle que l'objectif premier d'Investissement Québec, ben, c'est de faire de l'argent. Donc 0,3% de rendement, c'était très difficile. Là, à 7,4%, on semble beaucoup plus dans les cibles d'Investissement Québec. À partir de demain, Bruno Marchand s'envolera du côté de l'Europe jusqu'au 18 juin pour une durée de 12 jours. Le maire se dirigera tout d'abord vers la Belgique, ensuite vers l'Italie. L'objectif sera d'attirer deux congrès en 2029, soit celui de l'Association internationale des maires francophones et celui de Vélo City. On parle de retombées économiques de 1 million pour celui des maires et de 2,5 à 3 millions pour Vélo City. On veut que Québec demeure attractif malgré les travaux du tramway qu'on dit du côté du maire Marchand.
Voyage, voyage.
Ah, si j'étais le maire. Moi aussi, je choisirais des missions en Italie et en Espagne. C'est la dernière fois, monsieur le maire? Tu vas me dire, c'est des missions?
Ben en même temps, Jeff, malheureusement, on avait dû annuler la dernière mission en Espagne.
Oh oui, c'est vrai. Donc là, il faut aller y retourner.
Ben là, c'est la Belgique. La Belgique.
Ah,
oh,
c'est
l'Italie.
La Belgique. La Belgique. OK, oui, c'est
l'Italie.
Vrai. J'ai dit Espagne, mais c'est la Belgique. Hey, mes excuses, M. Marchand.
Voyage, voyage.
Admettons qu'on se fait comme si on était en Italie, Mathias. Fais-moi la prochaine nouvelle sur voyage, voyage.
Donc, le gouvernement Fréchette qui a décidé de transférer les 203 millions initialement prévus pour le garage Newton, on les a pas transférés du côté de l'Italie au beau soleil. On les a transférés du côté de Montréal pour boucler le financement de la ligne bleue du métro. C'est une aide fédérale. Donc, 203 millions, c'était une enveloppe fédérale qui était prévu pour le garage qui prendra le chemin directement de Montréal. Le chantier du garage Newton qui avait été mis sur pause en mars 2025 alors que le coût du projet avait augmenté de 650 millions à 650 millions. Le RTC qui continue de marteler la nécessité d'un nouveau garage en raison de leur manque d'espace. Le RTC qui demande aussi que si on ne relance pas le projet, ben on aimerait ça être remboursé d'au moins de 90 millions qu'on avait investi dans le projet en question.
Ouais, ça va être dossier à suivre. T'sais, chose certaine, oui, le RTC va avoir besoin éventuellement d'un nouveau garage pour avoir davantage d'autobus. Quoi que t'aies avec le tramway, j'ai hâte de voir comment ça va se matérialiser dans le futur. Mais t'sais, un garage à 534 millions comme il avait été prévu. Là.
C'est exagéré.
Bon, c'est ça. Un garage pour les autobus.
Ce qu'on avait proposé du côté du RTC, c'est de retirer le volet électrification pour enlever beaucoup de coûts pour quand même construire un garage parce que ce qu'on dit, c'est on n'a plus d'espace pour nos autobus.
En effet.
On a besoin d'un nouvel espace. Fait quitte à ce que ce soit, il n'y ait pas d'électrification dans le garage, on a besoin.
Exactement. Ah oui, parce que passé à côté du garage Chauveau, il y a plein d'autobus à l'extérieur. Là. C'est le centre Métrobus. Beaucoup d'autobus articulés à l'extérieur. Ça a des coûts, les garder dehors, surtout par temps froid l'hiver.
Il faudra attendre à l'automne pour connaître les détails du projet de port à container. QSL nous rapporte le Journal de Québec ce matin. L'Agence d'évaluation d'impact du Canada qui fera un avis consultatif jusqu'au 1er septembre pour déterminer si c'est nécessaire ou non pour eux d'effectuer une évaluation environnementale dans ce dossier-là. On va notamment analyser les préoccupations des citoyens. Je vous rappelle que la table citoyenne Littoral S avait notamment envoyé une lettre à cette même agence-là dans laquelle on remettait en question la position d'Olga Farman, la PDG du sport, pour effectuer les différentes vérifications environnementales. On pointait du doigt notamment le fait que Olga Farman siège au CA de CDPQ Infra, qui est également actionnaire de QSL, ceux qui veulent faire le projet de port à container. Je termine du côté sport. Nick Suzuki qui remporte le trophée Selkie remis au meilleur attaquant défensif de la Ligue nationale. Donc, une première pour le capitaine du Canadien. Et Cole Caulfield qui met la main sur le trophée Lady Bing remis au gentilhomme de la Ligue nationale de hockey. Donc, deux joueurs du Canadien qui obtiennent un trophée.
Il est gentil, ce petit Cole Caulfield-là. À Boulevard. À Boulevard Sandler, on adore votre créativité. Vous le savez, dans les deux dernières semaines, vous avez renommé le troisième lien. C'était le troisième rien.
Troisième rien.
Rien, c'était très bon.
Excellent, non?
Oui, et vous avez renommé également le tramway. Le tramway, c'était l'arrière-train.
Le maire Marchand a choisi l'arrière-train. Moi, j'aimais beaucoup le Napkin Express.
Le Napkin Express, oui, j'avoue, c'était pas mal mon préféré. Je pense que c'est pour des raisons éthiques que le maire Marchand a pris le Napkin Express. Mais bref, vous avez énormément de créativité. Et là, on veut faire appel encore une fois, votre créativité. Parce que, Mathias, on peut-tu dire encore le mot « femme » au Québec? Dis-moi donc, t'sais, moi, là, ma blonde Val, hey, c'est une belle femme. J'ai-tu le droit d'y dire encore? Ou on est rendu une société wokiste qui n'utilise plus le mot « femme » et « homme »?
Ben, selon certaines personnes, il faudrait peut-être que tu dises que c'est une belle personne ayant des menstruations.
OK. Donc, la femme est remplacée par personne ayant des menstruations. Fait qu'on remplace l'homme comment?
Ça, c'est une méchante. Personne ayant...
Personne ayant une érection le matin? On fait quoi? J'ai besoin de votre aide.
Personne ayant un engin de plusieurs centimètres entre les jambes?
Ce matin, Jacinthe Varelle a dit personne avec une prostate.
Ah!
Je trouvais ça bon.
Hey, ça, c'est bon.
Moi,
mais en même temps, les hommes qui se sont fait retirer la prostate...
Ben, c'est vrai, ceux qui ont eu le cancer, ça les exclut. Hey,
c'est un peu de discrimination envers les personnes qui ont eu le cancer. Jeff.
Ouais, il faudrait que Denis Gravel, dans le segment Québec-Montréal, le demande à Richard Martineau, justement, qui a subi l'opération. J'aimerais bien voir ça. Ah, PO nous marque personne produisant du sperme.
Ah,
ouais, ça pourrait aller.
C'est pas mauvais.
Bon, Audrey, une personne avec un boyau d'arrosage. Aussi. Pourquoi pas?
Pour ceux qui ne comprennent pas nécessairement de quoi qu'on parle, puis c'est normal, là, ces deux pétitions qui ont été déposées par la députée Jennifer McCarron du côté de l'Assemblée nationale, c'est les signataires de ces pétitions-là. Puis là, je tiens à dire, c'est une élue libérale, mais c'est pas des libéraux qui ont écrit des pétitions en question, puis ils ont dit qui ne s'associaient pas nécessairement aux libellés choisis dans la pétition en question. Mais les signataires de ces pétitions-là demandent la gratuité des produits menstruels, comme les tampons ou les serviettes hygiéniques dans les écoles du Québec. Mais on utilise, pour demander la gratuité de ces produits menstruels-là, le terme « on demande la gratuité », mais pour les personnes ayant des menstruations, au lieu de demander la gratuité pour les femmes.
Ouais, exactement. Le Christian qui disait, hey, c'est réducteur pour celles qui sont en ménopause. C'est vrai.
Hey, on s'en sort pas.
Trop, on s'en sort pas. Personne ayant une pomme d'Adam qui est rentrée également. 418-971-1021, comment qu'on va faire pour appeler un homme? Ou comment qu'on ferait pour appeler d'autres mondes aussi, là, si vous voulez laisser aller votre créativité, d'autres personnes? Parce que ce matin, il y a des gens qui ont laissé aller leur créativité, puis j'ai bien ri. Il y a un auditeur, entre autres, qui nous a écrit « Personne en situation d'écœurement au lieu de « je t'écœurerai ».
Ben oui.
Je suis pas écœuré, je suis une personne en situation d'écœurement. Il y a un autre auditeur, Carl, qui nous a écrit pour les gens qui sont obsédés sexuels. Okay? Il a écrit « Je suis une personne en manque de plaisir charnel ».
Ah, oh, ça fait charmant.
Ça look bien
ah,
plus,
ouais.
Là.
C'est plus chic. Voyons, on veut pas discriminer des obsédés sexuels, donc
ouais.
Trouve de nouveaux termes.
Exactement. Puis tu sais, quand t'es fâché, là, t'es pogné dans le trafic, puis t'es fâché, tu dis « Maudite merde, je suis dans le trafic. » Ben gars, comment tu serais moins fâché si tu disais « Je suis une personne en situation de désespoir routier. » C'est
ça
fort, hein?
Bonne.
C'est
personne en situation de désespoir routier. On n'est pas pris dans le trafic.
Non.
Mais tu sais, dans la population en général, dans les dernières années, on a eu beaucoup... Ouais. On a eu beaucoup tendance à faire ça. Hein? Un nain, c'est une personne de petite taille.
Exactement.
Un handicapé, une personne en situation d'handicap. C'est comme on n'est plus capable d'utiliser les termes définis. Il y a un terme qui a été...
Aveugle n'existe plus, c'est non-voyant.
Tu sais, des termes qui ont été utilisés pour décrire des personnes dans des situations précises, ben on a dit ces termes-là, on ne peut plus les utiliser. On va rendre le tout un peu plus compliqué. On va dire personne en situation de... Mais c'est la définition même de ce terme-là.
Exactement. Jérôme nous dit, pour un gars, personne ayant la capacité d'uriner debout.
Ah. Pourquoi pas?
Pourquoi pas? C'est bon, je trouve. Continuez à nous envoyer des idées au 418-971-1021 parce que... c'est quoi? Société... nous sommes une société en situation d'égarement présentement.
Ah, elle est quand même bonne.
Oh non,
elle
est excellente. Kim qui nous écrit, je suis en désespoir gouvernemental. En effet, continuez à nous envoyer vos noms de personnes.
En situation de désespoir gouvernemental, je pense que je rajouterais le terme situation. Ouais. Ça doit être bien important dans beaucoup de termes inclure tout le monde. Ce qui est drôle avec le Parti libéral, c'est qu'il y a de cela 2 ans, le Parti libéral avait comme dû faire son meilleur coup de pas parce qu'on voulait faire disparaître le mot femme du projet de loi sur les mères porteuses. Puis là, on revient avec une pétition qui parle de personnes en situation... comment qu'on dit ça, là? Personne ayant des menstruations, parce qu'on peut pas dire des femmes, bien sûr.
Exactement. Hey, autre chose, Mathias, t'as-tu une autre nouvelle, je voulais vous parler. T'as-tu un pire ennemi, toi, dans la vie, Mathias?
Honnêtement,
Quelqu'un là, que tu disais, hey, ça m'énerve. C'est un mouvement, un ennemi, quelqu'un. Puis 418-971-1021 aussi, vous pouvez y aller. T'as-tu quelqu'un que tu dis, hostifie qui m'énerve, lui?
j'ai certaines personnes qui me viennent en tête. Moi, ce qui m'énerve beaucoup dans la vie, c'est l'hypocrisie.
Ouais.
Donc, toutes les personnes très, très hypocrites, puis j'en ai connu certains dans ma vie. Ah, ils viennent me chercher.
T'as raison. Les personnes hypocrites, les personnes qui manquent d'honnêteté, c'est vraiment, vraiment, vraiment dérangeant. T'as entièrement raison là-dessus. Moi, là, sais-tu quoi? Moi, c'est le monde qui chauffe en débile sur nos routes que j'ai.
Ah!
T'es là, on est dans un quartier résidentiel, puis ils vont te rouler ça à 70 full pin quand il y a des affiches qui disent « Attention à nos enfants ». Ça, là, je suis pas capable.
Puis je trouve ça drôle que la première association que t'as fait, c'est le monde qui roule trop vite. Parce que là, on se rend compte que maudit qu'on a une grosse partie de notre âge qui est au volant.
Ben oui!
Parce que là, il y a plein de personnes qui m'énervent vraiment dans la vie. Sur les routes que je me suis rendu compte, le monde qui ne met pas leur flasheur, le monde qui roule trop vite, mais le monde qui ne roule pas dans la voie de gauche aussi.
Exactement. Le monde qui font juste du zigzag. Hey, le monde qui clenche la jaune. Hostifie, j'ai ça. Non, mais c'est vrai. T'es là, toi, là, ta lumière devient verte. Pourquoi, toi, tu serais plus pressé que moi et tu clencherais la jaune pour que moi, je passe pas sur ma verte? Ça m'énerve.
Le monde qui klaxonne pour rien. Ça m'énerve aussi.
Oh, oui. Eh oui, j'ai vécu ça il y a 2 jours. Arrêtez une lumière rouge. La lumière vient de tourner verte. Ah,
mon Dieu.
Elle vient de tourner verte. Puis écoute, la personne, c'est le 4e char. Hey, calme tes nerfs. T'es pas à 1 seconde et quart.
Parce que maintenant, aux lumières, puis ça, c'est une autre affaire qui m'énerve. Les personnes qui sont sur leur selle aux lumières, puis qui part pas quand la lumière vire verte. Ça m'énerve.
Oui, aussi.
Il y en a de plus en plus.
Ils sont en train de texter.
Dans ce temps-là, un petit coup de klaxon.
Oh, oui.
Mais quand la lumière vient de virer verte,
ben, oui.
On peut-tu donner un délai de, mettons, 2-3 secondes au minimum là, pour
exactement
laisser la personne décoder?
Pascal, il dit que c'est le gouvernement, lui, la personne qui l'énerve le plus. Ouais, je te comprends un peu, Pascal, mais inquiète-toi pas, la CAQ, ça se termine. Là. Ça va se terminer le 5 octobre prochain. Toi, là, t'es sur la route, y a quelqu'un qui t'énerve, là. Tu pognerais-tu ton gun, puis paf! Fini?
Ben, faudrait que j'aille un fusil pour ça, ouais, de base, là, mais non, j'irai pas jusque-là, tu
okay
vois.
OK, t'iras pas jusque-là.
Non,
hein?
Non, j'éviterai, mettons.
Ouais, parce qu'il y a des cabochons qui ont fait ça, là, en fin de semaine, ouais, sur le boulevard Champlain. Donc, près de la promenade Samuel de Champlain, la piste cyclable, un cycliste, on le voit dans le Journal de Québec, Steve Boutin. 3 personnes à bord d'un genre de camionnette, ils ont décidé qu'avec leur fusil à air comprimé, paf, ils en ont envoyé un sur ses genoux.
C'est pas des génies.
Pourquoi? Parce que maudit cycliste! Hey, ils prennent notre place, c'est le maire marchand, la maudite idéologie du maire marchand, on est aussi bien d'aller éliminer les cyclistes. Ça a-tu pas de sens ce qui s'est passé là?
Puis en dessous du spotted Beauport qui parle de ça, des commentaires, mais my God,
oh!
le monde est-tu sans génie? Du
ben
monde
oui
qui commente, arrêtez de tout vous permettre et le monde sera moins frustrant en venant justifier le fait que la personne a tiré sur le cycliste. On est sur la promenade.
Ben
en
oui
plus de ça, on est sur une piste cyclable.
Ben c'est
sur
ça
la promenade Samuel de Champlain.
Un endroit magnifique.
Puis un endroit fait pour les cyclistes
aussi. Oh oui, exactement. Puis bang. Oui, un autre qui dit, on devrait faire ça à Lille, en parlant de l'île d'Orléans. Je tiens à rappeler que on, c'est, dans ce moment-là, c'est O-N pour la personne qui écrit. Elle a écrit O-N-T. Donc,
ouais. Il y a beaucoup de fautes dans ces textos-là.
Ouais, on devrait, ben, il y a un petit œil à la fin du devrait, là. On devrait, ça n'existe pas. Est-ce qu'on va faire un petit cours de français avec cette personne-là?
Tu vois que c'est pas le monde les plus brillants qui écrivent ça. De base, peu importe la frustration routière que t'as, s'il te plaît, gère-toi, pense pas à des actes violents.
Ben,
de là
ça
à tirer sur quelqu'un qui fait juste se promener à un endroit qui est prévu pour ça, faut que tu sois un méchant codon.
Ah oh, oui, vrai. vraiment. Écoute, autre texto sous le spotted Beauport, justement, qui est mentionné. Attention! Je crois que cette haine pour les cyclistes vient du fait qu'on restreint, on restreint tout le monde pour eux. Selon moi, la guerre à l'auto de la ville de Québec en est la cause, bien que je condamne ce geste. Ouais, mais il n'y a pas de raison pour commettre ce geste-là, même si tu te sens opprimé dans ton droit d'automobiliste. T'sais, moi aussi, je vais vous le dire, je trouve, puis je vous le dis toujours sur les ondes, je trouve que la ville en fait trop en mobilité active. Mais voyons donc, là, allez pas commenter pour dire « Ouais, ben t'sais, c'est normal, hein, avec la guerre à l'auto, normal hein, qu'il y ait quelqu'un qui ait le goût de prendre son fusil à air comprimé puis en sacrer un sur un cycliste. »
Tu sais, je veux dire, il y a des cyclistes qui peut-être aiment pas des automobilistes, ils vont pas crever des pneus de voiture pour autant.
Ben non, exactement, non.
À un moment donné, c'est bien facile de dire « Ouais, mais là, j'ai de la frustration, mais c'est parce que l'administration marchand m'écoute pas, puis ils prennent des décisions pour les vélos, puis moi j'ai un char, puis ça fait pas mon affaire.
Ouais. »
Non, t'es un cave. Si tu tires sur quelqu'un, si t'es violent envers un cycliste parce que des décisions politiques font pas ton affaire, t'es un cave.
Exactement.
On peut tenter d'expliquer ce geste-là autant qu'on veut. Ça reste que le gars qui a fait ce geste-là, c'est un geste de cave.
Oh, c'est un geste qui n'a pas sa place dans notre société. D'ailleurs, Alejandro qui nous écrit « Le monde est rendu fou ». Oui, le monde est rendu fou. Puis Audrey aussi qui nous écrit que sur la route, ça fait 3 ans qu'elle travaille à temps plein sur la route, puis elle constate que les gens sont de plus en plus agressifs. Puis c'est un bon point, Audrey, que t'amènes, parce que faut prendre une grande respiration, tout le monde. Sur la route, moi, j'ai dit, je les haïs, le monde qui roule trop vite. Mais tu sais, je veux dire, si j'en en croise un, je vais faire une sensibilisation bien soft. Je serai pas fâché. Je vais y dire. Ça m'est déjà arrivé dans ma rue résidentielle de dire à quelqu'un qui circulait trop vite puis qui habitait pas loin de chez nous, hey, sais-tu quoi, mes enfants ont l'habitude de jouer dans la rue. Quand je te vois passer à côté, je trouve que tu passes vite. Ça te dérangerait-tu de ralentir? Je veux pas qu'il arrive de quoi. Il y avait genre 8 et 10 ans dans ce temps-là. Ça se peut qu'il fasse un mauvais geste. Tu veux pas être prêt avec ça, sa conscience. Je veux pas que ça m'arrive. La personne a fait, hey, ben oui, t'as donc bien raison, je vais ralentir. Pas eu besoin de le traiter de colon puis de dire, je vais te casser la gueule, tu passes à côté.
Ça s'appelle vivre en communauté.
Exactement.
Parce que là, on parle d'un cycliste, mais la rage au volant, c'est bon de s'unir, c'est de plus en plus. C'est en augmentation. Tu parles à n'importe quel policier, ils vont te dire le nombre de cas qui ont à gérer de rage au volant, c'est complètement ridicule. Je parlais à un policier l'autre jour, il me disait, quand il y a du trafic, là, on n'a pas nécessairement des accidents, mais en situation de trafic, c'est des cas de rage au volant qu'on doit gérer. À un moment donné, contrôle-toi, prends une bouffée d'air, peu importe la journée que tu as eue, peu importe les frustrations que tu as accumulées, c'est jamais une raison pour avoir un acte violent quelconque.
En plein ça. Donc, gérez-vous, les amis, si vous voyez des gens qui font justement des mauvais gestes comme ça, ben condamnez-les au lieu de leur donner du gaz sur les médias sociaux. Et à souhaiter, la personne, le cycliste en question, a déposé une plainte à la police. Steven Blouin, en passant 27 ans, assistant gérant dans une épicerie fine. T'es un gars qui fait de la course à pied, du vélo,
un sportif,
contribue à la société. Donc, à souhaiter que ces gens-là vont être arrêtés et vont être traduits devant la justice parce que c'est un geste hautement criminel qui a été commis. Dans quelques instants, Boulevard 102.1, Lani Dufour va venir s'installer avec nous, directrice aux affaires gouvernementales pour Catapulte Communication. Elle est passée l'avant-midi à l'Assemblée nationale. On parle énormément des boissons énergisantes et avec raison, mais il y a un projet de loi très important qui a été adopté concernant les soins à domicile. La population vieillit, les proches aidants en ont plein les bras. Je suis certain qu'on a énormément de proches aidants parmi nos auditeurs et auditrices. Donc, soyez attentifs à l'année du four. Ça va être très intéressant ce qui se retrouve dans ce projet de loi-là et ça va nous aider à justement, au lieu d'enfermer nos parents, parce que vois-tu, moi, mes parents, ils ont 73, 74, fait qu'au lieu de les pitcher dans un CHSLD, ça va les aider à rester dans leur milieu de vie et ça va donner un coup de main à ceux qui sont proches aidants. Circulation avant de partir à la pause, Mathias?
Oui, juste vous dire, l'accès au pont commence à être difficile. Puis là, écoutez-moi bien. Je parle de l'accès au pont en direction nord. J'ai aucune idée de ce qui se passe dans le secteur, mais sur la 73, direction nord, pour accéder au pont Pierre-Laporte, c'est très difficile actuellement, par choc à par choc. Si vous avez des informations, 418-971-1021 par texto. J'en profite pour faire un tour des routes parce que c'est difficile. On est vendredi, ça commence plus tôt. 20 direction ouest, c'est entre Taniata et Président Kennedy qui a un ralentissement. Je vous transporte sur la rive nord, Henri IV en direction nord, c'est à hauteur de chemin Sainte-Foy, bien sûr que c'est au rouge. Capitale direction est, c'est présentement entre Pierre-Bertrand et boulevard Neuvial qu'il y a un ralentissement. Capitale direction ouest à hauteur de Laurentienne, c'est au rouge. Laurentienne direction sud, pour prendre Capitale, bien sûr, un ralentissement dans le secteur. S'il y a quoi que ce soit d'autre, 418-971-1021, ça se passe par texto.
On parle de soins à domicile après cette courte pause à boulevard 101, l'émission d'En Jase. Émission d'En Jase sur Boulevard 101, c'est de midi à 14h avec Jeff Fortin et Mathias Turcotte. Le retour de Denis qui suit, le retour de Gravel avec Denis, Audrey et Véro. Pour communiquer avec nous, 418-971-1021, vous le faites de très bonne façon. Puis il y a Félix qui nous écrit, « Hey, il y a souvent des accidents avec les travaux sur Henri IV. La configuration des voies ou de la signalisation devrait être revue. » En effet, il y a des accidents le matin, là, il vient d'en avoir un autre. C'est un excellent point que tu amènes, Félix, à souhaiter qu'on va revoir le tout. Parlant d'accidents, parlant de circulation, Mathias, on va refaire un petit tour pour nos auditeurs parce qu'on est vendredi, il y a beaucoup de monde sur la route. C'est toujours bon de les informer.
Oui, puis c'est difficile sur la rive sud. Là. C'est bizarre ce qui se passe parce que j'ai pas plus d'informations.
Tout le monde s'en vient vivre à Québec? Plus belle ville au monde.
Tout le monde déménage la même journée, tout visiblement.
Hey, c'est plus le 1er juillet, la journée de déménagement.
C'est le 5 juin.
5 juin.
Parce que la 73, direction nord, l'accès au pont Pierre-Laporte, très difficile dans ce secteur. J'ai pas plus d'informations. Si vous en avez, 88-971-1021, c'est par texto. La 20, direction ouest également, entre Taniata et président Kennedy, c'est au rouge. Juste vous signaler sur la rive nord, ça vient de rentrer Henri IV, direction sud, à hauteur de rue Einstein. Il y a une panne, la voie de gauche qui est bloquée. Ça risque de devenir très compliqué dans le secteur au cours des prochaines minutes. Également, capitale en direction est, à hauteur de Robert Bourassa, c'est au ralenti. En direction ouest, c'est à hauteur de Laurentienne que ça se complique. Et je termine avec Laurentienne, direction sud. Pour accéder à capitale, un ralentissement également. Il y a quoi que ce soit d'autre, 418-971-1021, c'est par texto.
Lanny Dufour, directrice des affaires gouvernementales chez Catapulte Communication, est avec nous pour sa chronique hebdomadaire. Lanny, comment vas-tu?
Salut, ça va bien?
Ça va super bien. Lanny, là, je t'envie. Parce qu'à matin, t'étais avec un groupe de personnes aînées qui sont allées à l'Assemblée nationale pour parler de soins à domicile.
Exact. Dans le fond, c'est notre client. Fait que je vais. J'ai quand même un petit parti pris, on va se le dire.
Ouais, mais c'est tellement beau, je trouve, les gens. Puis là, tu sais, je veux pas comparer des aînés avec des jeunes, mais quand des groupes comme ça se mobilisent, je trouve toujours ça beau.
Puis je vais pas prendre le crédit non plus pour ma collègue. C'est vraiment... Moi, j'ai été là pour la dépanner aujourd'hui, mais c'est vraiment... Le mérite lui revient. Fait que j'ai juste été là pour l'apogée qui était le dépôt du projet de loi 691 de Marie-Carnine Laflamme. Elle a repris, dans le fond, le dossier quand elle est arrivée comme députée.
Ouais.
C'était avant Joël Arsenault qui s'en occupait. Donc, c'est vraiment pour le maintien de l'autonomie des personnes aînées. Ça date pas d'hier. Là. Dans le fond, là, il a été déposé, mais ça date quand même de 2024. Puis ça avait commencé là, à être discuté en 2022 parce que cette coalition-là regroupe toutes les grandes associations. Fait que l'idée, c'était de se mettre en commun pour dire bien, on va faire des recommandations. Fait que souvent, nous, annuellement, avec eux, on fait des événements, que ce soit des états généraux ou des grands rendez-vous nationaux pour les mettre tous ensemble. On brainstorm, puis on arrive avec des constats, on remet ça au gouvernement, puis on leur dit voici ce que les personnes aînées ont besoin. Et le maintien à domicile faisait partie de ça. Puis, tu sais, le projet de loi, finalement, bien, écoute, pas que c'est un vœu pieux parce qu'on le sait comment la session parlementaire va se terminer, mais c'est symbolique aussi. Tu sais, en termes de... On fait une action. Est-ce que le gouvernement, parce que là, comme je vous disais, c'est le troisième groupe d'opposition qui l'a déposé.
Oui, qui l'a déposé.
Est-ce que le gouvernement va réussir à aller de l'avant? Il n'est même pas capable de terminer l'ensemble des projets de loi qu'eux ont déposés. Mais quand même, une fois qu'on a dit ça, je trouve que, comme tu dis, que ce soit des gens qui se mobilisent. Puis, tu sais, l'idée, c'est pas d'être partisan non plus. Là.
Non.
C'est vraiment, au-delà de ça, c'est la cause. Puis ça a fait partie des discussions aujourd'hui. Puis c'était pas la première fois qu'il allait à l'Assemblée pour en parler. Mais souvent, on dit que les aînés, c'est un poids pour la société, mais dans leur discours, parce que c'est des personnes très actives avec qui j'étais, puis ces trois femmes sont super inspirantes, puis ils disaient, tu sais, on contribue à la société quand on devient, quand on prend notre retraite, parce que c'est nous qui s'impliquons, on fait du bénévolat, on voyage, on fait du tourisme, fait que c'est, tu sais, au-delà de ça, on redonne beaucoup, puis faut arrêter de voir ça comme si finalement on venait un fardeau, parce que c'est pas ça qu'on est.
C'est vrai qu'on prend souvent les personnes aînées pour un fardeau, puis 418-971-1021, si vous voulez interagir avec nous, tu sais, on dit souvent, ah, les aînés, on parque dans un CHSLD, puis là, c'est juste des coûts, les repas, l'hébergement, tout le kit, alors que présentement, les personnes aînées contribuent énormément à notre société.
Ben oui.
T'en as nommé un, bénévole. Les bénévoles,
ben oui.
Moi, je l'ai vécu au Patro Charlebourg. Mm-hmm. J'ai géré une banque alimentaire.
Ouais.
Toutes des gens de 65 ans et
voilà.
Plus. On l'a deux jours
puis
par semaine.
Aussi.
Ben
comme
oui.
Je te dis, il y en a beaucoup. Là. Nos fameux snowbirds, là, c'est quoi?
Ben, c'est clair.
C'est, à un moment donné, c'est qu'on les met tous dans le même panier. Puis ce qu'on demande, c'est d'avoir la demande principale du projet de loi, c'est d'avoir une politique, une directive nationale, une loi cadre qui encadre ça, finalement, là, pour se répéter, au même titre qu'on le fait avec les CPE, avec l'enfance. Fait que c'est de le prendre au sérieux, sachant qu'en plus, avec le vieillissement de la population, ben c'est
exactement
quelque chose qui s'en vient.
Puis là, c'est sur les soins à domicile, je pense...
Il y a beaucoup d'affaires. C'est le maintien dans l'autonomie. Fait
OK. Le maintien dans l'autonomie. Ça
mais
j'aime ça.
Ça inclut, évidemment, tout ce qui est les soins à domicile, parce que ces gens-là, ils veulent rester chez eux.
C'est quoi les points forts? Justement, au niveau du soin à domicile, c'est qu'on aurait plus de gens gens qui iraient justement donner les soins à domicile pour permettre aux gens de rester dans leur milieu de vie et qu'on les change pas de place trop rapidement pour les amener CHSLD RPA?
Exact. C'est vraiment d'avoir une stratégie nationale pour l'autonomie et le maintien à domicile, d'avoir des services adaptés à ça qui permet d'aller à eux, puis d'avoir aussi des environnements. Tu peux élargir ça avec les villes, les municipalités, d'avoir des services de proximité. En ce moment, tu sais, il y a le fameux programme Municipalité Amis des aînés.
Oui.
Mais comment on va plus loin? Parce que, tu sais, on peut construire des RPA, mais est-ce que être au bon endroit? Est-ce que les infras autour sont optimales? Mm-hmm. Puis, tu sais, au final, quand on parle de mobilité, bien, tu sais, puis d'accès, c'est pas juste pour eux, là. C'est aussi pour des familles, pour justement offrir des services. C'est pour les gens à mobilité réduite.
En effet.
Fait que, tu sais, ça peut vraiment élargir à beaucoup de choses, mais ce qu'on dit, c'est arrêtons de penser que, bon, ben on les envoie au CHSLD puis c'est fini. C'est vraiment, c'est le principal document là, de cette loi-là, c'est les soins à domicile.
La bonne nouvelle là-dedans, c'est que, tu l'as dit, c'est déposé par le troisième groupe d'opposition, donc il n'y a pas grand-chance que ça passe, mais le troisième groupe d'opposition est en avance d'un sondage.
Oui,
fait que mettons que c'est la bonne nouvelle du jour.
On peut dire ça, tu sais, quand on parle de politique même, tu sais, comme je te dis, au final, pas qu'on est patient, mais ça fait le projet de loi, c'est pas d'aujourd'hui qu'on en parle, c'est quelque chose qui chemine. Fait que si on arrive avec une nouvelle législature, voyons, j'ai de la misère avec ce mot-là
c'est
matin,
pas grave.
À l'automne, ben on peut penser que ça ferait partie des priorités quand même. Là, parce
en
que,
effet.
Tu sais, au nombre de ressources que le troisième groupe a, très peu, on s'entend, parce que ça y va aussi avec ton nombre de députés.
Ben, qu'ils l'ont mis dans leurs priorités.
Ils l'ont mis dans les priorités, donc on se dit, bon, ben est-ce que... qui décide ou pas, sache que le groupe que nous, on représente va faire ses représentations, puis ils ne lâcheront pas parce que, oui, il y a le maintenant, mais ils pensent aussi au futur.
Puis je salue le PQ, puis vous savez, je suis pas partisan d'un parti politique en particulier, mais dans les deux dernières années, temps d'écran, ça vient du PQ, crise des opioïdes, ça vient du PQ. Ils ont déposé une plateforme super intéressante pour l'itinérance, diminuer de 50% l'itinérance d'ici 5 ans. Là, on parle des soins à domicile, sont vraiment sur des politiques qui vont changer.
Sociales.
Plus sociales, qui vont changer la vie des gens.
Oui, puis aujourd'hui, trois projets de loi quand même qui ont été déposés. Oui, il y avait celui-là, mais il y a aussi lui sur les effets nocifs des boissons énergisantes.
Ouais.
Je te dirais que j'étais là sur place. C'est beaucoup les médias, puis les gens étaient beaucoup autour de ce sujet-là parce qu'on l'a déposé. C'est le gouvernement qui le dépose, donc on
c'est
peut penser
émotif,
que...
C'est très émotif, les parents de
Zachary
qui étaient là.
Les parents étaient là aussi dans les tribunes, ils ont parlé avec les journalistes.
Une belle ovation debout aux parents, justement.
Exact. Puis les deux projets de loi ont eu des votes numériques. Là, donc,
oui.
On voit qui vote pour et contre. Puis dans ce cas-là, toutes les parties qui étaient là, ce n'est pas les 125 qui votent. Souvent, ils ne sont pas nécessairement dans le Salon Rouge, mais zéro opposition, pas d'abstention pour ceux qui étaient là. Puis le dernier qui a été aussi déposé, puis t'en parlais, c'est de protéger les jeunes contre les effets néfastes des écrans. Donc, il y a eu ces trois projets-là. Fait que c'est pour ça que quand je vous dis, ça ne sera pas... rendu là, ce n'est pas une question de mauvaise volonté, mais aujourd'hui, on est vendredi. Puis il reste une semaine, encore 4 jours, on est en session intensive, puis c'est fini, là, les travaux. Ils pourraient, à la limite, décider d'extensionner, mais est-ce qu'on pense que c'est ce qui va se passer? C'est pas dans les rumeurs que j'ai entendues là, pour l'instant.
D'ailleurs, la première ministre a des poches sous les yeux à l'heure actuelle avec des sessions de 8 heures le matin à 10h30 le soir. J'ai remarqué ça tout à l'heure à la télévision. On l'avait remarqué pour Christian Dubé dans la séquence qui avait mené à la loi spéciale.
Puis là, je vais faire l'avocat du diable, mais...
Ouais.
On n'est pas fin quand on commence à critiquer le puis tu sais, je parle pas de toi, mais en général,
ben,
on est bon pour critiquer le physique des gens, mais hey, elle est là, puis elle fait sa job.
Ben oui, elle fait sa
les
job.
Autres parlementaires font leur job. Fait que moi, qu'elle aille des poches, puis qu'elle soit pas peignée, là, c'est vraiment le dernier de mes soucis. Puis je trouve qu'on est vraiment beaucoup trop sur l'apparence, surtout des femmes. Puis là, regarde, c'est mon petit éditorial du vendredi.
Vas-y,
là,
ma
en
féministe
politique.
En chef. Antonine Iacarini n'est pas là. L'année du faux remplace.
Il y a un remplacement. Puis de toute façon, honnêtement, les parlementaires, moi, je les trouve bon de siéger autant longtemps sans s'endormir.
Puis d'être concentré.
Hey, moi, là, siéger aussi... Parce que c'est plate, à un moment donné, une session parlementaire. Je cognerais des clous sans cesse là, durant 8 heures. Mon Dieu.
Hey, j'ai une question pour toi.
Oui.
Je les vois jamais avec du café. Ils le cachent-tu?
Ils vont chercher du café.
C'est
pas.
Ça, hein?
Mais
parce que moi, je me suis dit ça. J'ai dit, être politicien. Moi, je suis toujours en train de boire du café. J'ai dit, être politicien. si je bois pas de café, je casse.
Mais ça se passe peut-être moins dans parce qu'ils ont des bureaux, là. Ouais, ouais. Je pense que le café se boit plus dans les bureaux, mais quand, surtout à la période de questions, ils sont plus sur l'eau parce que les pages, ils se promènent puis ils vont leur
c'est
donner des
vrai.
Verres
d'eau.
Mais il n'y a pas le service du café offert. Fait que je pense qu'ils font ça.
Ils font
plus,
ça
c'est ça, hors des caméras.
Seigneur. Qu'est-ce que tu surveilles en terminant la semaine prochaine à l'Assemblée nationale, justement, dans les projets de loi que tu trouves importants qui pourraient être adoptés?
Bien, tu sais, on parle notamment de lui, je pense, des boissons énergisantes. Mm-hmm. On va vraiment pousser fort
vraiment.
Parce que c'est un enjeu qu'on veut. Tu sais, on a beau dire que c'est parti tout ça. Je pense que c'est un enjeu qu'on veut vraiment régler, qui est très émotif aussi, qui a l'opinion publique. Mm-hmm. On a le 11 aussi qui devrait passer. Il reste juste à signer là, pour, réduction des tout ce qui est réglementaire, mais qui vient inclure des clauses pour les forêts. Donc, toute la redevance qui est éliminée. Fait que ça, c'est une grosse demande de l'industrie aussi. Puis, bien, évidemment, de continuer, je dirais... là, je les ai plus en tête, les projets de loi, là, mais tout ce qui est autonomie, tout ça,
oui.
Je pense qu'on va les laisser de côté. Même chose, Constitution. J'ai des doutes qu'on réussisse à le passer, là.
Cool.
Mais ouais, ça serait pas mal ça.
Excellent. Merci beaucoup, Lanny Dufour. J'en profite personnellement pour te remercier parce qu'on va tourner... Moi et Audrey Pinchot, des capsules pour l'événement du 17 juin prochain. Ouais. C'est mercredi prochain. Hey guys, il reste 26 billets à vendre.
C'est très
on est
bon.
Capable de vendre ça.
Good job. Ben oui, 26.
Pour remplir la scène Le Bourgneuf pour l'événement avec Big Muff en version acoustique. Il y aura évidemment des personnes qui vont venir chanter que vous connaissez. Qui vont apparaître comme ça par magie. Bon, là, vous comprendrez que si Audrey fait des capsules, vous allez sûrement entendre Audrey Pinchot chanter. Du Shine It O'Connor, Nothing's Compares to You. Si vous l'avez jamais entendu live avec Big Muff, c'est votre chance. C'est sur la scène Le Bourgneuf pour vous procurer les billets. C'est au coût de 35 $ et la totalité du 35 $ s'en va dans un projet qui permet aux femmes et aux adolescentes défavorisées qui n'ont pas de médecin de famille d'avoir des soins de santé complets. Fait que tu achètes un billet, puis dis-toi qu'il y a une femme ou une adolescente qui va avoir un soin de service complet.
Pas chronique pire. Sociale vendredi, on aime ça.
Et voilà.
Écoute, on les a toutes passées.
On
j'aime
a
ça.
Toutes passées ça. Tu
on
vois,
en règle des problèmes.
On est des socialistes à boulevard. Lanny Dufour, merci beaucoup.
Salut, vendredi.
On s'en parle la semaine prochaine. Bon vendredi. Après la pause, tiens, j'ai quelque chose à vous faire entendre avant. Anouk Meunier pour Forfait Québec.
Ah, oh, il fait tellement beau et je suis dans la région de Charlevoix, une région que j'adore. Et grâce à Forfait Québec, j'ai l'occasion de vivre l'expérience au petit manoir du casino. Puis je vous invite à voir ça. L'emplacement de cet hôtel-là est parfait.
On vous parle de cette polémique de Forfait Québec. Plein de gens qui ont acheté des forfaits avec cette compagnie. Des gens qui s'étaient fiés à plusieurs influenceurs comme Anouk Meunier et qui se retrouvent le bec à l'eau. Pas de chambre d'hôtel. Pas de forfait qu'on avait acheté. On se retrouve le bec à l'eau avec aucun remboursement. C'est Mylène Sabourin, présidente de la forfaiterie, qui va être avec nous en studio pour nous parler de cette arnaque. Il est présentement 13h26. Vous êtes à l'antenne de Boulevard 101. C'est l'émission On en jase jusqu'à 14h. Le retour de Gravel avec Denis Véro et la reine de Boulevard. Je l'appelle comme ça maintenant. Audrey
Pinchot. Son nouveau surnom.
C'est son nouveau surnom. Mais écoute, c'est la reine certain. Elle est numéro 1 avec le Rock and Chill de 7h à 10h le samedi et le dimanche matin. Numéro 1 dans les sondages. Donc, continuez à écouter cette excellente émission et toute notre programmation de fin de semaine. À la météo, je vous le rappelle, ça va être très variable, la température dans les trois prochains jours. C'est 30% de possibilité d'averse présentement, 21 degrés sur Québec. Demain, ça va être 22 degrés. Ça devient nuageux le matin. Ça sera suivi de quelques averses et il y a un risque d'orage en après-midi. Et dimanche, à présent, c'est 18 degrés avec quelques averses. Donc, le couvert sera très nuageux sur Québec. Mathias, beaucoup de circulation en ce vendredi 5 juin.
Oui, puis je commence avec de quoi d'anormal. Là. 73 direction nord, donc sur la rive sud, pour prendre le pont Pierre-Laporte. Très difficile d'accès au pont en ce moment, puis il ne semble pas avoir d'accident nécessairement. Mm-hmm. Honnêtement, je ne pourrais pas dire ce qui se passe dans le secteur. Si vous avez l'information, 88-971-1021 par texto. Également, pour rester sur la rive sud, la 20 en direction ouest, c'est entre Taniata et Président Kennedy de ralentissement en ce moment. Vous signalez présentement la sortie pour Pierre-Bertrand à partir de Capitale en direction ouest. Il y a une panne, donc la sortie qui est partiellement entravée, ça pourrait créer des ralentissements dans le secteur. Déjà qu'il y en a, c'est entre Pierre-Bertrand et Boulevard Masson, présentement à Capitale direction est. En direction ouest, c'est à hauteur de Robert Bourassa qui est au rouge. Laurentienne direction sud, léger ralentissement pour prendre Capitale également. L'accès au pont, pour l'instant, ça se passe bien à partir d'Henri IV. Simplement un léger ralentissement à partir de Duplessis. Il y a quoi que ce soit d'autre, ça se passe au 418-971-1021 par texto.
En manchette, Mathias.
Dépôt du projet de loi visant à interdire la vente de boissons énergisantes aux moins de 16 ans ce matin à l'Assemblée nationale. Tous les partis d'opposition participaient à l'annonce, sauf un. Le Parti conservateur qui s'était opposé justement à ce fameux projet de loi-là hier. Justement, les parents de Zachary Miron qui étaient présents à l'annonce qui ont fait un appel au Parti conservateur de se ranger auprès des autres partis de l'opposition. Contrairement à ce que dit le gouvernement concernant le dossier santé numérique, plusieurs professionnels sur le terrain affirment que l'implantation se passerait mal. Puis on parle de professionnels qui ont témoigné dans le Journal de Québec, dans La Presse, dans Radio-Canada, qui témoignent que certains traitements de chimiothérapie auraient pris du retard ou encore que certaines personnes auraient été privées de soins à domicile en raison du logiciel en question. Du côté de Mme Fréchette, on a dit qu'on n'était pas nécessairement au courant des difficultés du dossier santé numérique pour l'instant. Et Sonia Bélanger, la ministre de la Santé, a témoigné en disant que somme toute, malgré des quelques difficultés, ça se passe plutôt bien. Je termine avec des bonnes nouvelles côté économie. L'économie canadienne qui a créé 88 000 emplois au mois de mai. Donc, le taux de chômage qui a reculé pour s'établir à 6,6%. Pour ce qui est justement de l'emploi au Québec, c'est 5,6%. Le taux de chômage, donc une excellente nouvelle de ce côté-là également. Et du côté de la région métropolitaine de Québec, légère augmentation qui nous porte à 3,8% pour le taux de chômage.
On apprenait aujourd'hui dans le Journal de Québec, Journal de Montréal, que des centaines de clients de l'entreprise Forfait Québec, dont plusieurs ont été influencés par des vidéos promotionnelles de personnalités publiques, je vous ai fait jouer celle d'Anouk Meunier avant la pause, sont incapables de se faire rembourser leur escapade subitement annulée dans des hôtels de la province. Pour en parler avec nous, on a Mylène Sabourin, qui est présidente de la Forfaiterie. Elle est avec nous en studio. Mylène, merci beaucoup d'être présente cet après-midi.
Merci de me recevoir, c'est gentil.
Fait plaisir. Mylène, premièrement, quand ceci arrive, j'imagine que pour votre industrie en entier, où vous proposez des forfaits en échange, c'est jamais bon d'avoir un genre de scandale comme ça qui arrive, là?
Effectivement. En fait, c'est dommage pour toute l'industrie. Puis les premiers à être touchés par ça, bien évidemment, c'est les clients, c'est les partenaires aussi, les hôteliers, les restaurateurs qui sont touchés par des situations comme ça. Puis comme vous l'avez mentionné, tous les clients qui avaient des forfaits, qui étaient prêts à utiliser pour leurs vacances, bien c'est eux qui se retrouvent aussi le bec à l'eau dans cette situation-là. Puis malheureusement, bien on se rend compte que c'est des éléments qui n'ont pas été nécessairement mis en place par certains de nos concurrents qui amènent ces situations-là.
Vous, à la Forfaiterie, justement, comment vous faites pour vous assurer qu'une situation comme ça n'arrivera pas?
Bien, à la base, la Forfaiterie, dès son incorporation en 1997, l'OPC a exigé qu'on soit détenteur d'un permis d'agent de voyage.
Okay.
Ce que ça signifie concrètement, c'est qu'à toutes les fois qu'il y a un forfait qui est vendu à la Forfaiterie, les sommes liées à ce forfait-là sont placées dans un compte de fiducie. À chaque année, l'OPC vient vérifier et s'assure que les sommes liées aux forfaits qui sont en circulation sont encore disponibles en compte de fiducie pour pouvoir soit payer le partenaire, évidemment, quand le forfait sera utilisé. Ou encore, si un client qui veut échanger son forfait parce qu'il a changé d'idée, qu'il veut essayer une autre expérience. Ou encore, si malheureusement, l'établissement pour lequel avait un forfait ferme ses portes, bien, il peut revenir à la forfaiterie. Les sommes sont disponibles. Donc, c'est des protections que nous, on a chez nous à la forfaiterie.
Excellent. Fait que moi, quand j'achète un forfait, c'est sûr que l'argent est réservé pour ce forfait-là. Ça ira pas pour payer des employés, par exemple, ou pour se payer un nouvel aménagement de bureau.
Exactement. On est obligé, sinon l'OPC vient nous taper sur les doigts, nous oblige à réinvestir dans l'entreprise de nos propres poches. Donc, on s'assure de respecter là, nos ratios de fonds de roulement puis des excédents également là, qui sont exigés par l'OPC.
Qu'est-ce qui fait en sorte que ces exigences-là ne se retrouvent pas uniformes partout dans le marché?
Bien, en fait, je ne saurais pas vous dire pourquoi on a d'autres concurrents qui n'ont pas ces permis-là. Nous, c'est vraiment, dès notre incorporation, c'était pas moi à l'époque, mais les recherches ont été faites justement pour s'assurer de bien faire les choses dans notre domaine. Normalement, dès qu'on vend de l'hébergement sur le marché du Québec, ça nous prend un permis de l'OPC. Fait qu'à ce moment-là, je peux pas parler pour les autres entrepreneurs, mais c'est plutôt... Moi, j'invite les clients, en fait, à faire les vérifications avant d'acheter des forfaits comme ça, s'assurer que les entreprises avec lesquelles ils font affaire, bien, qui ont une bonne réputation, ne serait-ce que d'aller voir les commentaires. Oui, il y a des démarches qui peuvent être faites auprès de l'OPC, mais déjà, ces démarches-là, ça peut les aider.
Oui, parce que dans le cas de Forfait Québec, on disait que certains hôteliers, quand ils arrivaient pour être payés, on n'avait pas nécessairement des moyens de payer ou des clients qui voulaient être remboursés, on disait « bien, on n'a plus d'argent ». C'est pas censé arriver, des situations comme ça, me semble.
À la forfaiterie, en tout cas, c'est sûr que ça n'arrive pas. Du côté de Forfait Québec, malheureusement, je ne peux pas me prononcer sur comment eux fonctionnaient au niveau de la gestion des sommes. Là, évidemment, il y a des informations qui ressortent dans l'article là, qu'on a vu ce matin. Mais c'est sûr que c'est malheureux, puis non, c'est pas supposé arriver, une situation comme ça. Ouais.
Faites des forfaits pour des restaurants, pour de l'hébergement, pour des activités. Comment ça fonctionne avec les clients? Comment vous avez cette approche-là avec vos clients, finalement, que vous offrez des forfaits?
Bien, nous, on a essentiellement trois clients. C'est-à-dire qu'on a nos clients initiaux, c'est les partenaires avec lesquels on travaille. Nous, c'est vraiment une relation qui est importante pour nous parce qu'on veille à les mettre en valeur sur le marché québécois, à mettre en valeur les super expériences qu'ils ont à offrir à nos clients. C'est vraiment un travail de collaboration pour s'assurer d'aller créer des offres qui sont pertinentes pour eux. Ensuite, ben, notre deuxième client, c'est le client qui vient acheter le forfait, qui veut essentiellement l'offrir en cadeau, donc d'offrir un moment, de prendre le temps de réfléchir à qu'est-ce que la personne à qui ils vont l'offrir, elle a besoin, c'est quoi ses intérêts. Puis, donc, on les conseille pour choisir le forfait. Et ultimement, le dernier client de la forfaiterie, ben, c'est celui qui profite réellement de l'expérience, qui va aller passer un moment dans un hôtel, un souper au restaurant, un déjeuner, une journée de détente ou une journée, une sortie en activité. Donc, c'est nos trois clients. Puis pour tous ces gens-là, ça se passe super bien. On a à cœur l'expérience de l'ensemble de nos clients, de nos partenaires. Puis on s'assure que c'est le plus fluide possible. Puis encore une fois, mais l'élément de sécurité qu'on mentionnait tout à l'heure, bien, c'est en place pour tous ces gens-là, sans exception.
Le suivi des forfaits que vous faites, exemple, avec un hôtel ou un restaurant, avez-vous un moyen de qualifier ou de quantifier le succès ou le bonheur du client qui a utilisé le forfait?
On n'est pas en contact directement avec la personne qui l'utilise. C'est-à-dire que nous, le forfait est au porteur. Donc, si je vous offre un forfait, vous l'offrez ensuite à votre collègue qui l'offre à sa sœur, qui l'offre à sa mère. Malheureusement, je ne peux pas savoir qui est la personne ultimement qui l'a utilisé. Par contre, je pense que ce qui est un bon indicateur pour nous que les gens sont contents, bien, les avis qu'on reçoit de nos clients, mais aussi bien, le fait que ça fait 30 ans que la forfaiterie existe, que ça fonctionne aussi bien, qu'on a une belle croissance aussi année après année. Donc, pour moi, c'est le plus bel indicateur. Puis sinon, bien, évidemment, on est en contact très proche avec nos partenaires qui nous partagent aussi s'il y a des éléments à adapter avec les forfaits qu'on travaille avec eux. Bien, on est toujours en relation avec eux pour le faire.
Si je suis un auditeur et que j'ai « la forfaiterie, il faut que j'ai là, exemple, pour gâter ma blonde ou mes parents ou me gâter moi-même », à quel endroit? Site web, point de service?
Oui, laforfaiterie.com. Sinon, à Québec, on a des boutiques à Laurier-Québec, aux Galeries de la Capitale, puis de l'autre côté des ponts, aux Galeries Chagnon également. Sinon, dans la région de Montréal aussi, on a des points de service.
Magnifique. Allez-y. Moi, j'ai acheté quand même assez régulièrement des forfaits chez vous. Des forfaits Hôtel Golf que j'aime bien.
Ben oui, à l'approche de la fête des pères, en plus.
Exactement.
Là, un beau clin d'œil à faire à vos proches.
Oui. Pas pour ma blonde que j'ai là présentement, mais c'était à l'époque pour la mère des enfants, des petits forfaits massage, des trucs comme ça.
Effectivement. Ce qui est le fun aussi, avec la forfaiterie, c'est que souvent, quand on l'offre à notre conjointe, c'est un petit peu un cadeau pour nous aussi. Nos forfaits sont souvent pour deux personnes.
Déjeuner mon père, qui amène jamais ma mère au restaurant. Ouais. Je vais chercher un petit forfait resto jusqu'à le père. Peut-être je donne ça en cadeau aux deux. Oui, j'ai un cadeau pour vous deux. Puis là, mon père fait « Ah, je vais être obligé d'aller au resto. »
Ah non!
Donc, il y a vraiment toutes les bonnes raisons pour faire affaire avec vous. Merci beaucoup, Mylène, d'être passée pour nous éclairer justement sur ce qui s'est passé dans cette affaire avec Forfait Québec. On fait une dernière pause dans l'émission. On en jase. Par la suite, Mathias, on va faire deux choses, OK? On va se poser la question. Es-tu capable de vivre sans ton téléphone ou sans les médias sociaux? Parce que ça va être le gros dossier de la fin de semaine dans les journaux. journaux de Québécois, donc dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec. Puis on va faire du sport avec Alex Laramé. Rappelle-nous donc deux trophées pour les joueurs du Canadien.
Ben oui, Nick Suzuki qui remporte le trophée Selke, remis au meilleur attaquant défensif, et Cole Caulfield qui remporte le trophée Dady Bing, remis au gentilhomme de la Ligue nationale de hockey.
On fait ça pour conclure l'émission On en jase et cette belle semaine avec vous sur les ondes de Boulevard 102.1. Hey, on a une vedette en studio avec nous autres, Mathias.
Ben oui, on
est à 13h42, on a Arthur Gravel qui est là. Tu veux pas t'installer au micro encore, toi, là? Ah ouais, non. Viens nous piquer une petite jasette, là, la vedette. Ouais, hein? Ton père doit te chercher, puis il va dire « Ah, il est rendu où, Arthur? » Et là, il est toujours dans le studio avec Jeff Fortin quand il arrive à cette heure-là. Comment ça va, hein, mon gars?
Ça va.
Ça va? Yes! T'as-tu écouté un peu le hockey hier?
Non.
Non? T'écoutes plus ça une fois que le Canadien est éliminé?
Ben, le Canadien est éliminé,
C'est ça, hein? Ça.
Fait que c'est plus intéressant dans ce temps-là.
C'est vraiment plus intéressant.
C'est ça, exactement. Mais Crème, deux trophées. Trophée pour Nick Suzuki, meilleur attaquant défensif. Il a reçu ça aujourd'hui. T'es-tu fier de ton Nick?
Je crois qu'il faisait beaucoup de travail en attaque puis en défense, puis il mérite.
Il mérite, hein? Oh, oui, c'est un bon joueur.
C'est bien dit, point. Ça.
Non, c'est un point. Puis trophée du joueur le plus gentilhomme à Cole Caulfield. C'est vrai qu'il est gentil, hein, Cole?
C'est pas compliqué.
C'est pas compliqué?
Il est petit.
Ouais?
Les personnes essaient de le plaquer.
OK.
Il contourne le monde. Puis ça va scorer, c'est ça qu'il fait.
C'est une machine, 51 buts. Excellent fun. Tu vois ça comment, le Canadien? Vont-tu faire des échanges, tu penses? Là? Ont-tu besoin d'un autre joueur de centre?
Pas tant.
Sont assez bons, là.
S'ils n'ont pas eu la Coupe Stanley cette année, ils vont l'avoir l'année prochaine.
Ah ouais, t'es confiant de même?
Ouais.
On n'y est pas. La Coupe Stanley à Montréal l'année prochaine, c'est ta prédiction. Ouais?
Ouais.
Cool. Puis Patrick Roy, l'ancien goaler du Canadien, va-tu aller coacher les Maple Leafs de Toronto, selon toi?
Pas du tout,
hein?
Bon, il va juste rester chez lui à rien faire puis écouter les Games Islanders.
Tu dirais ça, soyez Patrick Roy devant toi?
Ouais.
Oh ouais, tu serais gay, me disais ça, toi. Ah ben, tabarouette, c'est donc ben drôle, ça. T'es-tu un amateur de baseball? Tu vas-tu aller au Capital de Québec cet été?
Peut-être,
ouais. T'aimes-tu aller au Capital?
Bof, si c'est juste pour les hot dogs, moi j'aime ça, mais sinon...
Fait que toi, c'est pour manger des hot dogs que tu vas au baseball.
Mais non. Non? Je trouve que ça fait... Depuis l'année passée que j'aime le baseball, je sais pas trop pourquoi.
OK.
Une nouvelle passion.
Ouais, j'ai décidé j'aimais ça.
Ben, il y a eu les Blue Jays en série qui ont bien fait ça. En passant par texto, les gens disent que t'es très mignon.
Ah.
Ça te gêne-tu?
Pas du tout.
Pas du tout? T'as dit. Tu vas te faire un animateur de radio plus tard?
Peut-être.
Ouais, comme ton père?
Si je fais mes études puis ça fonctionne.
Ouais, c'est vrai. Va falloir que tu fasses tes études. Va falloir que t'ailles à Jonquière, en ATM. Eh, Seigneur.
Peut-être pas.
Peut-être pas?
J'ai plus le goût de rester chez moi qu'aller à Jonquière.
Jonquière, ça t'intéresse pas beaucoup.
Non, tu veux rester à Québec, toi.
Ouais.
Hey, cool. Hey, Arthur, la porte du studio est toujours ouverte pour toi.
Merci.
Ah, mais attends une minute, là. On va mettre notre chroniqueur sportif en onde, là. Alex Laramé. Alex, comment ça va?
Ça va bien vous autres, Arthur. Ouais. Il y a l'air en forme.
Ben oui, t'es-tu d'accord avec les propos d'Arthur? Coupe Stanley l'année prochaine à Montréal?
On se le souhaite. Je le souhaite pour Arthur et pour nous tous aussi.
Mais hein. Parce que toi, Arthur, t'as quel âge, donc?
10,
parce que si la Coupe Stanley l'an prochain, mais Arthur va juste avoir attendu 11 ans avant sa première Coupe Stanley, vous autres.
Ça fait quand même longtemps.
Hey, imagine nous autres, si Arthur trouve que ça fait longtemps, 11 ans, moi, 22 ans, Alex, ça doit pas être loin de ça non plus, un peu plus. Nous autres, ça commence à faire longtemps, pour vrai. Arthur, t'es quand même gâté.
Mais au moins, mon père a vécu une Coupe Stanley. Moi, je n'ai pas vécu une.
Ouais, c'est vrai, il a vécu avec ses Bruins. Avec ses Bruins qu'il a vécu sa Coupe Stanley. Puis du Canadien aussi, oui, en 93.
Quand il avait 12 ans, là, genre mon frère, en ce moment, il a vu gagner le Canadien en Coupe Stanley.
Ouais.
Puis je crois que l'autre année... Est-ce que l'autre année, il avait gagné la Coupe Stanley?
Ouais, ton père est comme moi. Il a vu les Coupes Stanley de 86 et 93.
Mais l'année de 94... Ils n'ont pas gagné, puis il s'est dit, bof, moi j'arrête de regarder. En vrai, on sait pourquoi il a arrêté avec les Canadiens, c'est que pendant le 100e anniversaire du Canadien, ben, les Canadiens étaient pour en mourir, puis il a décidé, ben, il faisait rien de spécial, fait qu'il a décidé d'aller voir les Pyrénées et les Bruins de Boston.
Ouais, c'est ça, puis là, toi, ça doit se coltoyer à la maison, hein, Bruins Canadiens?
pas fait. Moi, j'aime les deux équipes.
Toi, t'aimes les deux équipes, t'as réglé ça de même. Hey, Arthur, Steve nous dit que t'es le roi de boulevard. Donc, on a maintenant la reine de boulevard, Audrey Pinchot, et le roi de boulevard, Arthur Gravel. T'es une machine, mon homme. Tu le sais-tu?
Je le savais déjà.
Ouais, hey, t'es ton père. Je le savais déjà.
Je le savais déjà.
Non, hey, mais l'as-tu la confiance, ouais, ce gars-là?
C'est ça, on rentre en monde.
Au moins, je suis pas une machine avec un gun. Sinon, ça irait mal.
Hey, c'est bon, ouais, ça, c'est sûr. Là. Je t'adore. Je t'adore. Hey, ton père, ils ont eu des bons sondages hier, hein?
Ouais.
Ouais,
il est content d'avoir dépassé le choix, puis il mérite.
Ah ouais, parfait, ça. Là, on pourra savoir plein d'affaires sur Denis. Hein. On pourrait vraiment savoir plein d'affaires.
Mais les affaires qu'il ne veut pas que je dise, je vais regarder ça confidentiel.
Ouais, c'est ça. Je l'adore. Oh, hey, je l'adore. Dieu. Reste avec nous autres, Arthur, on parle de hockey. Alex Laramé, Nick Suzuki qui remporte le trophée Frank Selke pour le meilleur attaquant défensif. Écoute, Alex, c'est pleinement mérité, puis j'ai l'impression que ça ne sera pas son seul en carrière.
Ben, si on regarde l'historique du trophée Selke, les joueurs qui le remportent habituellement vont en chercher deux ou trois. Puis, tu sais, il a complètement dominé là, la portion des votes. Je regardais ça. 151 votes de première place. Tu sais, Cirelli en était en chercher 10. Mm-hmm. Fait que je pense que c'était unanime là, que c'est lui qui méritait le trophée cette année.
Hey, plus 37, c'est lui qui a joué le plus de minutes, justement, parmi les attaquants qui étaient en liste. Ça, c'est plus de 1400 minutes, me semble, que j'ai vu. 101 points, donc c'est vraiment une année exceptionnelle pour Nick Suzuki. Très bien mérité. Seulement 14 minutes de pénalité pour Cole Caulfield. Il se mérite le joueur le plus gentilhomme de la Ligue nationale. Cole Caulfield, oui, c'est un joueur gentil, mais... je suis certain que vous allez être d'accord avec moi, Alex Mathias et Arthur, parce qu'Arthur est encore installé avec nous. Cole Caulfield, c'est un ambassadeur du hockey aussi. Il a toujours le sourire. Il marque un but, il en a marqué 51, puis quand il... Les 51 buts qu'il a marqués, on dirait que c'est son premier qui marque à vie tellement. Il est content, il est beau à voir jouer. C'est un modèle extraordinaire pour nos jeunes.
Ça fait du bien pour la game, pour la Ligue nationale, un joueur comme ça, aussi positif. Oh, tu sais, 14 minutes de pénalité dans une saison, c'est très bas, mais ouais. Pour moi, c'est pas juste ça qui fait en sorte que Cole Caulfield a gagné des D-Bings, c'est son attitude en général, son attitude positive. C'est un exemple pour nos jeunes, Jeff, puis tu fais bien de le dire.
Ah, vraiment. Alex, tu dois triper sur Cole Caulfield, toi aussi, t'es installé à Montréal?
Ben, c'est sûr que Cole Caulfield, c'est un joueur qui est très apprécié dans la métropole. Il fait partie de notre noyau avec ouais. Lane Hudson, Nick Suzuki. Puis, justement, vous en parliez, mais Lady Bing, justement, je pense que c'est plus que les minutes de pénalité. C'est vraiment ce qu'il représente le sport. Puis, vous l'avez dit, là, c'est un super bon ambassadeur.
Toi, Arthur, est-ce que tu trouves que c'est un exemple à suivre, Cole Caulfield?
Ben, il a marqué 50 buts. Ça fait longtemps qu'on attend le 50e but d'un joueur des Canadiens.
Vraiment?
Puis, ben... C'est un gars que, dans la chambre, je crois qu'il fait des blagues. Parce qu'il a l'air d'être bon en blagues comme moi.
Comme moi, j'adore. Est-ce que c'est ton joueur préféré du Canadien, Arthur?
Non, mon joueur préféré, c'est Demidov.
Oh, t'as le même que mon Edouard. Oh oui, Demidov est vraiment rempli de talent. Hey, parlant de Demidov, Alex Laramé, ça va valoir quoi, Ivan Demidov? Parce que là, il faut le signer à long terme. Vas-tu signer un contrat à Lane Hudson à 8 millions par année ou il va essayer d'aller chercher le magot à 10?
Ben, selon moi, là, t'sais, on veut pas le catégoriser, mais l'histoire nous dit que les joueurs russes, ils aiment ça l'argent.
En effet.
Fait que selon moi, ce sera pas. Je pense pas qu'il va prendre vraiment un pay cut là, comme le fait Lane Hudson. Surtout que si on regarde ses statistiques, je veux dire, 60 points de saison recrue, ça se paye. Moi, si j'étais lui, honnêtement, j'aurais peut-être même tendance à pas signer cet été puis d'y aller avec une année de plus, mettre encore plus de points puis vraiment aller chercher le gros lot. Mais si le Canadien est capable de le signer aux alentours de 10 millions cette année, je pense que c'est un contrat qui va bien vieillir pour le Canadien.
Tant qu'à être sur Demidov, parlons de rumeurs d'échange parce qu'il y a plusieurs joueurs de centre qui sont disponibles. Bon là, Dylan Larkin aurait dit « Hey, moi là, savez-vous quoi? je veux être échangé des Red Wings de Détroit. J'ai 29 ans. Je veux aller pour une équipe qui aspire aux grands honneurs. Larkin a été un joueur très important dans la conquête de la médaille d'or des États-Unis cette année au niveau du, au niveau des Jeux olympiques. Mais Larkin, je pense pas qu'il atterrisse à Montréal parce qu'il est dans la même division que les Red Wings. Ça me surprendrait que les Wings prennent cette chance-là parce que Dylan Larkin a le potentiel de devenir un vrai joueur de concession là, s'il va dans une équipe qui aspire aux grands honneurs.
Ouais, ben moi, Larkin, c'est un bon joueur, on va y donner, mais oui, il a gagné la médaille d'or avec les Américains, mais je sais pas à quel point c'est un gars qui peut porter son club. Fait que pour moi, deuxième centre, c'est peut-être plus sa place qu'être un vrai premier centre. Comme tu l'as dit, je pense pas que Détroit va l'échanger à Montréal. Quoique, ça a l'air qu'on était à une minute d'avoir un échange canadien-toronto puis Mathieu Nice qui débarque à Montréal. Ouais. Mais bon, je pense que quand même la logique, c'est qu'on l'échangera pas dans la même division. Selon moi, il faut regarder du côté de l'Ouest. Puis moi, le gars qui semble être disponible, qui fit le plus avec le Canadien, pour moi, c'est Robert Thomas. Ça, oui. C'est vraiment la cible que j'irais chercher. On a fait un échange Bolduc contre Mayou.
C'est
ça a été
vrai.
Un peu gagnant-gagnant des deux côtés. Fait qu'il y a déjà une relation qui est établie là. Moi, c'est définitivement la cible que j'aurais pour le Canadien cet été.
Puis pour vrai, si le Canadien réussit à aller chercher Robert Thomas comme deuxième centre, c'est un coup de circuit.
Ah, oui.
Parce que Thomas n'est pas un... Moi, je le dis, Thomas n'est pas un deuxième centre.
Non, c'est un premier.
C'est un premier centre. Si on a Robert Thomas comme deuxième centre, c'est exceptionnel. Là. Dans les dernières saisons de Thomas, les trois dernières, c'est 86 points en 82, 81 en 70. Puis cette année, on a eu un petit ralentissement, mais c'est quand même un point par partie. On comparait Robert Thomas à Nick Suzuki. Il y a de cela deux ans. On disait que c'était deux joueurs du même niveau sensiblement. Robert Thomas, c'est tout un joueur. Si on est capable d'aller le chercher, je suis prêt à donner quand même beaucoup pour un gars comme lui.
Un autre joueur qui est beaucoup dans les rumeurs d'échange, et ça serait un vrai bon deuxième centre, Nico Hischier avec les Devils du New Jersey. Moi, je l'aime. Capable de tuer des pénalités, peut te faire un bon travail sur la deuxième unité d'avantage numérique. Un gars qui a quand même fait 67, 69, 66 points dans ses trois dernières années. Après sa meilleure saison en carrière de 80. J'aime beaucoup ce joueur-là, toi, Alex?
Ben, c'est sûr que c'est un joueur que j'aimerais ça voir débarquer à Montréal. Le seul problème, c'est que les rumeurs, c'était avec leur ancien DG. Là, il y a maintenant un nouveau directeur général. Puis je lisais, je pense que c'est Pierre Lebrun qui rapportait que le nouveau DG est plus intéressé à le signer que de l'échanger. Donc, est-ce qu'il serait encore disponible? Ça reste à voir, mais définitivement, c'est exactement un joueur de centre qu'on a besoin chez le Canadien pour venir compléter Nick Suzuki.
Pour un gars comme Hischier, j'ai l'impression que ça va jouer à la fin de la saison. Ben, en fait, pas à la fin de la saison, mais à la date limite des transactions. Dépendamment de comment le New Jersey fait l'an prochain, est-ce que c'est encore une saison difficile? Si la réponse est oui, on pourrait tenter d'échanger Hischier justement à la date limite.
On se transporte à la finale de la Coupe Stanley hier soir.
Augustus Bear. Vers le centre. Gossus Bear, la passe. Le tir.
Les Hurricanes ont fait comme contre le Canadien de Montréal, c'est-à-dire un premier match difficile en défensive et hier, une victoire en prolongation. Il y a match samedi soir à Vegas. Messieurs, je pense que les Hurricanes viennent de se donner un élan. Je prédis une victoire des Kings. 4-3, tiens.
Ouais, moi aussi, je pense qu'ils vont pouvoir profiter de cette victoire-là puis d'aller en coller deux de suite. Faut parler, par exemple, que John Tortorella, sa contestation, c'était horrible hier. Là. Ça a probablement coûté la game à son club.
À quoi il a pensé? L'arbitre avait sifflé. Il y a clairement obstruction sur le gardien de but. Il donne un avantage numérique gratuit aux Hurricanes à 2-2 dans le match en troisième période. Pauvre Jordan Stallmark.
Ouais, ça peut faire tourner la série. Là. Moi, je vois une victoire de 4-2 là, pour les Hurricanes dans le match 3.
Moi, je vais prédire 5-3 pour Vegas. C'est un club d'expérience. J'ai l'impression qu'ils vont rebondir.
Brett Holland est maintenant rendu à 13 buts, mes amis, dans les séries. Il en a marqué 12 dans l'année.
Ouais, il y a plus de buts en série qu'en saison. Ça, c'est quelque chose.
On appelle ça un gars clutch. Faut dire que quand tu es avec Mitch Marner qui fait les passes qu'il fait, des fois, ça peut aider un joueur à devenir marqueur.
Effectivement.
Alex Laramie, je te souhaite un excellent week-end. On s'en parle lundi.
Yes, bon week-end à tous.
Salut Alex, chroniqueur sportif pour nous et journaliste au 99.5 Montréal. C'est le temps de vous dire au revoir.
Juste vous signaler que Sunwing et WestJet ont suspendu leur activité sur l'île de Cuba. C'est sorti il y a de ça quelques minutes.
Ça continue à aller très mal pour l'île cubaine. Souhaitons qu'on va en arriver à un accord entre eux et les États-Unis. Mathias Turcotte, je te souhaite un excellent voyage.
Merci, on se revoit le 17.
On se revoit le 17, c'est Nathan Meilleur qui va m'accompagner la semaine prochaine dans l'émission On en jase, le retour de Gravel suit à l'instant même. Bye bye guys, bon week-end.
Gravel dans